Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6. À Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria. Diffusé en direct, mercredi 8 octobre 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 9, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01
Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Beketch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Bonsoir Victoria.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir Philippe Conrad.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-Claude Valla.
Bonsoir.
Bonsoir Pierre Demeuse.
Bonsoir.
Oh, il n'a pas de micro, mon Dieu.
Oui, mais il en aura un tout à l'heure. Dominique Vénère va nous rejoindre. Une émission, je ne dis pas bonsoir à Patrick Goffman parce que nous allons parler avec lui tout de suite. Bonsoir quand même Patrick Goffman.
Pas bonsoir Bernard Lugan.
Pas bonsoir. Une émission qui va être divisée en trois parties. Une première partie consacrée à l'actualité africaine. Une seconde partie qui va être consacrée au dernier livre publié par les Cahiers Libres d'Histoire de Jean-Claude Valla. Un livre intéressant sur un personnage tout à fait important dans l'histoire du nationalisme français. Georges Valois, livre sous-titré « De l'anarcho-syndicalisme au fascisme ». Nous allons avec Jean-Claude Valla et Pierre Demeuse essayer de décortiquer cette mouvance qui s'est développée autour de Georges Valois et les querelles avec l'Action française, la place qu'a eu Georges Valois ou la non-place qu'a eu Georges Valois dans l'histoire du nationalisme français. Et la troisième partie de l'émission qui sera consacrée au dernier numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire avec Dominique Vénère qui est pris dans les embouteillages et qui va nous rejoindre dans un moment. Dans les médias, je voulais simplement saluer notre ami Patrick Goffman, qui est le secrétaire de rédaction du Libre Journal papier, du Libre Journal papier de Serge de Bekech, parce qu'il ne faut pas confondre le Libre Journal oral et le Libre Journal papier. Et il y a un journal qui est. On pourrait s'électrocuter. Le Libre Journal de Serge de Bekech et Patrick Goffman qui vient avec le numéro tout chaud. On peut dire qu'il est tout chaud. Vous avez les épreuves entre les mains. Et de quoi va nous entretenir ce journal, ce numéro? Quel est le numéro?
C'est le numéro 303 qui est sous presse.
Alors Patrick,
qui sort des presses aujourd'hui.
Parlez-nous de ce numéro.
Ben, je vous remercie d'abord Bernard Lugan de rétrocéder, je crois que c'est le mot, quelques minutes pour présenter ce journal imprimé. J'y insiste parce que je continue à rencontrer des auditeurs qui n'ont pas encore compris qu'il existe un Libre Journal imprimé. C'est pourtant son 10e anniversaire il y a quelques mois. Et
le Libre Journal de la France courtoise.
De la France courtoise, oui. Et son numéro 303 donc, qui sort des presses aujourd'hui. J'en présente rapidement le sommaire et ce sera tout. Et puis, on peut tout de suite attraper un papier, un crayon pour savoir, pour noter où se procurer ce numéro ou s'abonner. Nous consacrons notre une à la belle figure, dans tous les sens du terme, de Sainte Thérèse de Lisieux. Il lui est consacré un grand pèlerinage de la tradition catholique samedi prochain. Alors, je m'interromps pour saluer tout particulièrement ceux et celles qui nous écoutent nombreux dans toute la Normandie, en Normandie et en modulation de fréquence, si je peux encore me permettre une petite plaisanterie. Et je leur donne rendez-vous d'ailleurs à Lisieux. Je serai avec les pauvres et certains riches sur le parvis avec une liasse du Libre Journal sur le ventre, puisque j'en suis non seulement le secrétaire de rédaction, mais le colporteur, l'humble colporteur. Donc j'irai à la rencontre.
Le camelot du Libre Journal.
Voilà, pourquoi pas. Donc j'irai à la rencontre de nos amis de toute la Normandie. Je pense qu'on peut faire 50 kilomètres de Caen ou même 150 de Cherbourg, une centaine du Havre pour se rendre devant la basilique de Lisieux, qui est un monument intéressant en soi. Donc ce sera samedi 11 octobre. Je pense que je serai vers 14h avec une heure d'avance, je crois, pour la messe. Mais Victoria a prévu de rappeler ce rendez-vous. Et je crois que la messe du pèlerinage est à 15h samedi prochain. Nous consacrons notre éditorial à ce que nous avons appelé le deuxième round de l'affaire du match Quentin-Trintignant, que nous avions pudiquement négligé jusqu'à maintenant en essayant de considérer que c'était une affaire privée. Mais enfin, puisque la mère éplorée de Marie Trintignant a décidé non seulement d'en faire une affaire publique, mais une affaire industrielle, eh bien, nous disons ce que nous en pensons et nous indiquons d'ailleurs quels sont les moyens industriels qui sont mis en œuvre par la mère éplorée et par le groupe Hachette Lagardère, le trust, un des premiers du monde en communication, qui est derrière elle. Nous avons ensuite, j'ai été émerveillé personnellement par la double page de ce que j'appelle un peu cyniquement de la vaticanologie. Je n'ai rien vu d'équivalent dans les médias, gros, petits ou moyens. Nous avons un homme au Vatican, à la Curie, il signerait Carzel, c'est un pseudonyme évidemment, et il explique ce qu'il y a derrière la trentaine de nominations de cardinaux, il explique ce qu'il faut attendre de la prochaine élection du pape, il sait déjà que le prochain pape devrait s'appeler Jean-Paul III, et il explique pourquoi, et il a un candidat qui me paraît tout à fait crédible. Je pense que c'est réellement une exclusivité, c'est une double page très dense et passionnante de vaticanologie tout à fait exclusive.
Notre agent au Vatican.
Voilà, notre agent au Vatican. Hommage aux traîtres, ensuite, ce n'est pas nous qui le rendons, c'est l'Institut du Monde Arabe. On a rendu un hommage plus solennel encore que précédemment aux porteurs de valises. Et peut-être sommes-nous naïfs, mais nous parvenons encore à nous en effarer et à le dénoncer. François Brignot, signature historique de la presse patriotique, nous donne comme d'habitude deux grandes pages. Nous avons, c'est de nouveau une habitude bien ancrée maintenant, une revue de presse qui ne néglige pas, vous pensez bien, le 10e anniversaire de la revue L'Afrique réelle, mais je vous laisse le soin d'en parler. Tant que nous sommes en Afrique, nous repiquons sans vergogne une grande interview de Farid Smaï accordée à Tunis Info, qui est tout à fait intéressante. Nous sommes bien obligés de rapporter le cas de Monsieur Bélanger, PDG de Skyrock, notre encombrant voisin sur la modulation de fréquence à Paris. Beaucoup d'auditeurs ont cru que c'était une interférence de Skyrock quand ils ont entendu le rap de Beketch la semaine dernière. Je peux leur dire que non, c'était bien le rap de Beketch et que Skyrock n'était pour rien. D'ailleurs, Skyrock et son PDG sont beaucoup trop occupés à des violences sexuelles et à des viols divers, dont pour lesquels ils sont mis en examen pour s'occuper de faire des interférences sur Radio Courtoisie. En dernier lieu, bon, je ne peux pas mentionner les 24 pages de rédactionnel, mais en dernier lieu, je mentionnerai un article que nous avons extrait de notre ami Daniel Amiche, que nous avons trouvé d'abord dans le Légitimiste. Je suis toujours très heureux, moi, quand on réimprime un article de la presse amie, parce qu'il me semble que ça compense la faiblesse de la diffusion de nos titres, et que, bon, bah, quand on est repris par deux, trois journaux de la presse amie, eh bien, ça nous permet de peser un peu plus sur l'opinion que ça n'est le cas d'habitude.
Oui, quand on est cité.
Voilà. Ah, bah, il va de soi que Daniel Amiche est cité en tête de l'article, voilà. En pied, au milieu et à travers. Nous lui avons demandé donc l'autorisation de réimprimer une mise au point, et je parle du point hebdomadaire, absolument cinglante. D'abord parce qu'il s'agissait de La Passion, le film de Mel Gibson auquel évidemment nous nous intéressons de très près puisque Mel Gibson est persécuté pour avoir suivi à la lettre le récit des Saintes Écritures dans son film. Et ensuite parce que c'est également intéressant du point de vue, vous avez remarqué peut-être que quand vous lisez un article, je ne sais pas moi, l'Histoire, le magazine L'Histoire sur l'esclavage, sur un sujet dans la grande presse, dans la grosse presse, sur un sujet que vous connaissez bien, vous bondissez à chaque paragraphe parce que c'est bourde sur Bivezet, sur Contresens, sur Anry, sur à peu près. Alors c'était le cas de cet article du Point sur La Passion, et on a trouvé passionnant l'article d'Amiche qui en 9 points, de façon absolument cinglante, toutes les dates sont fausses, enfin tout, il relève une suite continue d'erreurs dans cet article, et il rétablit la réalité donc sur l'histoire très très controversée déjà de ce film La Passion, qui va, c'est sûr, qui est déjà en train de devenir un film culte.
Patrick Goffman, comment fait-on pour se procurer le Libre Journal de Serge de Beketch?
Alors si vous en avez assez, les auditeurs aussi, j'en suis sûr, de mon petit discours de vente peut-être un peu trop passionné, un peu trop détaillé.
Non mais c'est donc, tout à fait intéressant, un sommaire vraiment très alléchant.
Si on veut donc un échantillon de notre production gratuite, c'est sur Internet, mais évidemment ce ne sont pas les numéros les plus récents, donc c'est sur Internet libre-journal.fr.fm. Si on veut recevoir ce numéro 303 comme spécimen, on envoie un carnet de timbre. Si on a enfin compris qu'il faut envoyer 110 euros pour être abonné un an à ce journal qui paraît sur 24 pages 3 fois par mois, on envoie donc son chèque de 110 euros à SDB 4 places France List.
Éplé.
LISZT. 75010. Paris.
Répétez, s'il vous plaît.
110 euros pour l'abonnement d'un an. Un carnet de timbre pour un spécimen. À SDB. 4 places France List. 75010. Paris.
Merci Patrick Goffman, et nous saluons Serge de Beketch qui peut être pas loin à l'écoute.
Je vous remercie Bernard Lugan, je salue vos invités, vos auditeurs.
Au revoir, merci. Thank you. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Becquetch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Alors, je le disais tout à l'heure, nous allons diviser l'émission en trois parties. Une partie africaine, une partie qui va être consacrée à l'étude du livre de jeu consacré à Georges Valois par Jean-Claude Vallat, et une troisième partie, nous parlerons avec Dominique Vénère de la nouvelle revue d'histoire, et nous allons tout à l'heure parler de thèmes tout à fait intéressants. Première partie donc, l'Afrique, et comme d'habitude, je passe la parole à Philippe Conrad, qui va introduire cette partie qui va me poser un certain nombre de questions.
Oui, alors lors de la dernière émission, nous avons surtout évoqué le 10e anniversaire de l'Afrique réelle. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'actualité africaine la plus brûlante, car ce malheureux continent noir connaît encore beaucoup de vicissitudes, qu'il s'agisse des événements du Congo démocratique ex-Zaïre dans sa partie orientale, la fameuse région de l'Ituri, ou alors des événements qui se déroulent en Côte d'Ivoire, où la situation apparemment stabilisée un temps devient de nouveau bien problématique. Et puis, Bernard, vous nous parlerez aussi, je crois, du voyage de George Bush et puis des entreprises américaines en direction de l'Afrique noire. Et puis, nous terminerons par constatation d'un certain nombre d'évolutions tout à fait remarquables. En effet, la revue L'Histoire, que nos auditeurs connaissent peut-être, qui ne fait pas précisément partie de nos amis, a consacré, dans sa dernière livraison, un dossier à l'esclavage. Et il faut le dire, tout à fait surprenant, puisque...
Oui, mais qui ne veut pas voir des choses.
Ah non, mais qui ne nous surprend pas, nous, qui nous surprend venant de cette publication, puisque l'on s'y attache à montrer notamment l'importance de la traite négrière musulmane, oui, qui est tout à fait nouveau, et ce qui a été repris d'ailleurs dans la presse, je crois.
Le monde
de ces jours-ci l'a signalé, l'a remarqué. Donc, nous aurons sans doute beaucoup de choses intéressantes. Oui, à ce sujet que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder.
Voilà. Tout à fait.
En gros, les points sur lesquels nous allons nous arrêter ce soir. Alors d'abord, la situation du Congo démocratique, l'ex-Zaïre. Nos auditeurs se souviennent évidemment de l'intervention qui a été mise en œuvre en Ituri, dans le nord-est du pays, pour mettre un terme au massacre interethnique qui se déroulait dans ces régions. Bernard, vous nous aviez expliqué très précisément comment se présentait la situation géographique, ethnique, politique dans ce secteur particulier du Congo. L'opération Artemis apparemment a été, pendant la présence des troupes françaises, un relatif succès, au moins dans la région de Bounia qui était sécurisée. Ce qui se passait en brousse, évidemment, c'était autre chose. En tout cas, les Français sont partis, remplacés par les Sri Lankais, je crois. Et nous apprenons régulièrement que de nouveaux massacres ont lieu. Apparemment, les malheureuses populations de ce secteur ne sont pas au bout de leur peine. Alors, quelles sont les perspectives que l'on peut imaginer pour cette région de l'Ituri dans les semaines et les mois qui viennent?
Bon, les perspectives sont tristes et sombres, puisque l'on reste dans une logique de non-partition de l'ex-Zaïre. Alors, tant que nous resterons dans une logique de maintien des frontières totalement aberrante de cet état ectoplasmique situé au centre de l'Afrique et de part et d'autre du bassin du Congo, nous ne pourrons pas avoir de solution. La seule solution est d'en revenir aux grands équilibres naturels. La région de l'Ituri est une dépendance du monde pastoral Hima-Tutsi. La région de l'Ituri est une dépendance de l'ancien royaume du Bunyoro, de l'ancien royaume de l'Ankole, qui étaient des états pastoraux, donc qui aujourd'hui sont englobés dans l'Ouganda. La seule solution d'avenir, c'est que l'Ituri d'une manière ou d'une autre soit rattachée à l'Ouganda, comme plus au sud, la seule solution dans la région du Kivu est que cette zone soit rattachée au Rwanda. Et tant que les hommes politiques et tant que les observateurs en resteront aux frontières héritées de la colonisation dans cette zone, eh bien, ils auront autant d'esprit d'initiative que des moules accrochées à un rocher. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, dans la mesure où les massacres ethniques n'ont jamais cessé, il n'y a pas de raison qu'ils cessent. Ils ont cessé à Bounia du temps de l'intervention française. Alors, j'aimerais revenir sur l'intervention française, qui a été, bien sûr, une réussite au point de vue militaire. Ça, nous savons faire. Hein. Nos camarades savent bien faire cela. La présence française a été tout à fait bien réussie à Bounia. Alors, pourquoi la France est-elle intervenue en Ituri? Elle est intervenue pour une raison très simple. C'était une intervention qui était d'ordre diplomatique. C'était un moyen pour la France Je l'ai déjà dit, un moyen pour la France de reprendre pied dans cette partie de l'Afrique dont nous avions été éjectés après la malencontreuse politique mitterrandienne de soutien au gouvernement Habyarimana au Rwanda. D'une manière ou d'une autre, la France, à tort d'ailleurs, a porté la responsabilité d'événements dont elle n'était pas responsable directement, mais dont elle avait en partie permis le déroulement, puisque en 1990, je reviens en arrière, en 1990, s'il n'y avait pas eu l'intervention militaire française pour aider le régime d'Habyarimana, les Tutsis, qui étaient à 40 km de Kigali, auraient pris le pouvoir, il y aurait eu 50 000 ou 100 000 morts, mais il n'y aurait pas eu 1 million de morts 4 ans plus tard avec le génocide. Et la France s'est trouvée évincée de la région, car elle est passée comme étant le soutien des Hutus. Donc la France est intervenue pour reprendre pied dans la zone, et deuxièmement, la France est intervenue parce que, souvenez-vous du contexte, nous étions dans un contexte de post-intervention irakienne, les Américains commençaient, pas à s'empêtrer, mais les Américains venaient juste, entre guillemets, de gagner la guerre d'Irak, ils ne voulaient pas intervenir au Libéria, alors qu'on se massacrait au Libéria, alors que la communauté internationale demandait aux Américains d'intervenir au Libéria, qui est un pays qui leur était très 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 proche, et le secrétaire général de l'ONU, face au massacre de l'Ituri, a demandé à la France d'intervenir. Et la France a montré, en intervenant dans l'Ituri, qu'à la différence des États-Unis, elle était désintéressée. Car les États-Unis étaient intervenus en Irak pour le pétrole, alors qu'il n'y avait pas de génocide. Au Libéria, où il y avait un génocide et où eux étaient responsables, car c'est eux qui avaient créé le Libéria, ils n'ont pas voulu intervenir car il n'y avait pas d'intérêt économique, le gouvernement français a joué un très bon coup diplomatique en disant « Mais voilà, voyez, nous sommes totalement désintéressés puisque l'Ituri n'est pas dans notre zone, il y a des massacres, le secrétaire de l'ONU demande une intervention, eh bien, nous sommes les seuls à pouvoir y aller. » Pour montrer que si nous n'étions pas allés en Irak, c'était pas par lâcheté, c'était uniquement parce que nous considérions que les intérêts politiques et que la cause de l'intervention irakienne n'était pas la bonne. Donc c'est un très, point de vue diplomatique, rien à dire, c'est bien joué. Au point de vue local, c'est différent. Différent parce que, au point de vue local, l'intervention française s'est faite à Bounia, donc dans la seule ville tenue par les Hema. Les Hema qui appartiennent au grand groupe Tutsi, et le groupe pastoral, qui est traditionnellement dominant dans la zone. Et ce que l'on n'a pas vu, ce que nous n'avons pas vu, ce que les observateurs n'ont pas vu, c'est que les Hema, qui sont minoritaires, comme dans l'ensemble de la zone interlacus, avaient été très largement massacrés dans le reste de l'Ituri. Pourquoi ? Parce que leur habitat est dispersé. Les Hema étant des pasteurs, ne vivent pas en zone concentrée. Il n'y a pas une zone Hema, ça n'existe pas. Les Hema vivent dispersés au milieu des autres populations, sauf en lisière du lac, mais c'est une toute petite zone. Ce qui fait qu'ils ont pris sur leur village les masses de l'Endou qui les ont massacrés. Donc les Hema se sont repliés sur la zone centrale de l'Ituri et ils ont fait de Bounia leur zone de résistance. Ils se sont regroupés. L'opération Artemis s'est faite donc contre les Hema, puisque l'opération s'est faite dans la seule zone tenue par les Hema. Il eût été tout à fait judicieux de faire une double intervention. Il eût fallu, pour montrer que nous étions totalement neutres dans l'affaire et simplement intéressés par des raisons humanitaires, envoyer deux contingents, l'un à Bounia, chez les Hema, et un en zone Lendou, pour bien montrer que nous ne prenions pas parti, nous n'intervenions que pour sauver les populations. Ce qui n'a pas été fait, je pense, tout simplement par méconnaissance de la situation, parce qu'il y a peu de gens en France qui connaissent l'Ituri, et nous sommes intervenus donc à la demande de l'ONU. Donc, une intervention qui, au point de vue diplomatique, était tout à fait justifiée, qui, au point de vue militaire, a été très bien réussi, c'était pas facile, parce qu'il fallait tout faire à partir de Kampala, en Ouganda, donc c'était une projection pas simple du tout à réaliser, mais bon, les militaires l'ont bien réussi, comme d'habitude, ils savent faire, et maintenant, ils sont partis. Mais ils sont partis, et bien que se passe-t-il ? Eh bien, ce qui s'est toujours passé, c'est-à-dire que les Lendou massacrent les Hema, et que les Hema massacrent les Lendou. La situation n'est pas exactement la même qu'au Rwanda, l'on nous a présenté la situation comme étant la même qu'au Rwanda, les Hema étant l'équivalent des Tutsis, et les Lendou l'équivalent des Hutus. C'est totalement faux. Les Hema sont évidemment l'équivalent des Tutsis, avec une différence, c'est que les Hema n'ont jamais constitué d'État, et qu'ils sont une projection de l'État du Bunyoro. Et quant aux Lendou, ce ne sont pas les Hutus, puisque les Lendou sont des Nilotiques, et que les Hutus locaux, qui sont les Bira, sont les alliés des Hema. Voilà, donc une situation très compliquée, que les observateurs n'ont pas vue, parce qu'ils ne connaissent pas la carte ethnique et les rapports ethniques de cette région. Alors que va-t-il se passer ? Eh bien, Nous sommes dans un cadre d'accord de paix général pour le Congo-Zaïre. Il est évident que cet accord de paix va être tenté par les divers partenaires. Et je pense que ces affrontements vont être circonscrits. Il va y avoir encore de nombreux massacres, mais qui vont être limités à la zone, car nous allons rentrer dans un processus de règlement à l'africaine, tout à fait provisoire. Les problèmes sont niés. Un grand partage du pouvoir va se faire au Congo-Zaïre. C'est-à-dire chacun refait ses forces, chacun contrôle ses territoires, car le pays est en pleine partition, pour l'étape suivante. Et l'étape suivante, eh bien, c'est une étape qui se réglera lorsque les Africains qui sont partie prenante vont voir quel est le rôle des grandes puissances et en particulier des États-Unis. Si les États-Unis, comme on peut le penser, vont à un échec en Irak, et si à la suite de cet échec, il y a un retournement de politique aux États-Unis avec un retour à l'isolationnisme sous une forme ou sous une autre, ou un repli sur la doctrine de Monroe plus ou moins aménagée et élargie, on va revoir en Afrique ressurgir un certain nombre de problèmes, car les grandes questions de conflit en Afrique ont été mises sous l'éteignoir ou sous l'étouffoir ces derniers temps, parce que les Américains ont montré les gros yeux. Ils ont montré les gros yeux au moment où ils venaient de s'installer en Irak. En ce moment, avec ce qui se passe en Irak, les yeux qu'ils montrent sont de moins en moins impressionnants pour les Africains. Donc tout le monde attend de voir comment les Américains vont se comporter en Irak. On peut dire que la situation est là.
Oui. Donc une situation pour le moment incertaine.
Tout à fait incertaine, avec des massacres qui continuent.
Oui, des massacres qui continuent, et avec des perspectives d'évolution pour le moment encore bien floues.
Bien floues. Hein,
tout dépendant donc d'un contexte international.
D'un contexte international qui
lui-même incertain.
Lui-même incertain.
D'accord. Alors deuxième région d'Afrique qui nous intéresse tout particulièrement nous Français, évidemment, c'est la Côte d'Ivoire.
Même réflexion.
Avec les problèmes que nous avons connus l'an passé. La situation semblait à peu près stabilisée. Les choses sont en train d'évoluer, notamment au nord. On l'a vu avec l'agitation qui a saisi Bouaké, avec les divisions apparues au sein du camp des rebelles, entre guillemets, et peut-être une évolution de la position française en faveur du régime Gbagbo qui semble avoir distingué justement un frémissement en sens et qui en est évidemment très satisfait.
Oui et non. C'est plus compliqué que cela. Je l'ai déjà dit sur cette antenne. Il était vital pour le camp de Gbagbo, du président Gbagbo, était vital de faire tomber Taylor, le président du Liberia. Pourquoi ? Parce que Taylor appartenait à une ethnie, les Gyo et les Mano, qui étaient opposés à l'ensemble Krou. Or, le président Gbagbo fait partie de la famille Krou, c'est un Bété. Donc, il est totalement apparenté aux Kran et aux Krou qui sont au Liberia. Donc, tant que les Gyo et les Mano étaient au pouvoir, la frontière du Liberia n'était pas un continuum politique pour lui. Maintenant que Taylor n'est plus au pouvoir, il a un ennemi qui a disparu au Liberia. Donc, il est dégagé du problème sur sa frontière libérienne. Déjà, un premier problème. Deuxième élément, qui est tout à fait important, le président Gbagbo commence à prendre une stature présidentielle. On le dit, tout le monde le disait perdu il y a quelque temps. L'intervention française l'a sauvé il y a un an. Il est évident que lorsque les Français sont intervenus, les rebelles nordistes étaient en marche sur Abidjan. Et ils n'allaient faire qu'une bouchée de l'armée de Gbagbo qui s'était débandée. À part une ou deux unités de gendarmerie, Gbagbo ne pouvait compter, qui étaient des gens de son ethnie, Gbagbo ne pouvait compter sur personne. Donc il était quasiment balayé. Dans un premier temps, l'intervention française a sauvé Gbagbo. Et Gbagbo, qui est renforcé politiquement depuis la chute de Taylor, Gbagbo a renforcé son propre pouvoir. Il a tenu et il s'est réarmé. Alors son armée est toujours aussi mauvaise qu'auparavant. Seulement, il a embauché des mercenaires, il a acheté beaucoup de matériel. Et on se trouve dans une situation un peu inverse maintenant. Comme si l'armée française empêchait les rebelles d'être balayés. Et du moins, c'est l'idée que Gbagbo et ses relais essaient de faire passer. En disant, voyez, les Français, vous êtes là, laissez-nous rétablir la souveraineté sur l'ensemble du pays. La preuve, disent les hommes de Gbagbo, regardez, les rebelles se battent entre eux, c'est une bande de pillards, c'est simplement une bande de sous-officiers mutinés, etc. Alors, que va-t-il se passer? Ben, la France est bien embêtée, elle envoie des renforts, jouant toujours la politique de fiction, d'interposition entre les deux camps. Alors, tout le problème est quand même politique. Il va falloir que Paris décide, à un moment donné, Paris laisse se faire la partition de la Côte d'Ivoire, ou si Paris, fidèle à cette politique de non-remise en cause des frontières héritées de la colonisation, décide de soutenir un camp ou l'autre. Il va falloir choisir son camp. Ou les rebelles, ou le président. Car dans notre cas, ça voudrait dire que la France est favorable à la partition. Donc on en parle beaucoup dans la haute sphère française. Alors, le choix qui va être adopté est un choix qui est difficile. Parce que ce qui s'est passé à Marcoussi, bien entendu, c'est un habillage provisoire, c'est du bidon. Rien de définitif n'est sorti de Marcoussi. Tout le monde a gagné du temps. Les Africains pour essayer de refaire leur force et les Français pour essayer de calmer la situation. Et là, il va falloir choisir. Et étant donné que les rebelles s'affaiblissent et montrent que, à l'évidence, ils ne font pas le poids pour prendre les rênes du pouvoir, d'autant plus que Ouattara a l'air bien en retrait, on n'entend plus parler de lui, celui qui apparaît comme l'interlocuteur incontournable, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on soit pour lui ou qu'on ne soit pas pour lui, c'est Gbagbo. Du moins, telle est la réflexion réaliste qui est en train d'être faite. Il n'y a pas de préférence de sentiment là-dedans. Il y a une analyse froide qui est en train d'être faite par certains milieux français. Et dans ce contexte-là, Gbagbo est en train de bien jouer. Il ne parle plus des États-Unis. D'ailleurs, il a intérêt, puisque les États-Unis sont totalement sur l'arrière-main. En Afrique, nous en parlerons tout à l'heure. Gbagbo regrette d'avoir laissé ses militants manifester avec des drapeaux américains contre l'ambassade de France, parce que tout le monde espérait que les Américains allaient être les grands oraux de l'Afrique. Mais les Américains n'ont pas du tout l'intention. Ils sont déjà bien empêtrés en Irak, et ils ont bien montré qu'ils ne voulaient même pas intervenir au Libéria, qui était un pays qui dépendait d'eux, qui est une de leurs créations. Avec 200 Marines, les Américains auraient réglé le problème à Monrovia. Ils n'ont même pas voulu le faire. Ils craignaient une situation à la somalienne. Ce qui fait que les Américains ne sont pas présents en Afrique. C'est encore une légende, ça. C'est encore un conte pour les petits-enfants, la menace américaine en Afrique. Une menace sur les zones de pétrole en mer, offshore, oui. Mais pour le reste, continentalement, non. Et les Américains, qui sont déjà incapables de contrôler l'Irak, n'ont pas vocation à aller s'enferrer en Afrique. Du moins, s'ils sont réalistes, et ils le sont. Donc voilà la situation, qui est très mouvante là aussi. Et si les rebelles continuent à se diviser, si les rebelles continuent à faire preuve de leur pusillanimité et bien sûr de leur incohérence, il est bien évident que la politique ayant horreur du vide, Paris va peut-être se tourner vers Gbagbo. Peut-être qu'une réconciliation se produira. Voilà une situation très mouvante, là encore. Alors, que va-t-il se passer? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas Madame Soleil. Je ne lis pas dans le marc de café. Je vous dis la situation, qui est une situation très, très volatile.
Avec une accalmie dans l'ouest du pays.
Oui, une accalmie.
Où se trouvaient donc des groupes plus ou moins contrôlés, et apparemment, dans cette direction-là, les choses se sont améliorées.
Oui, il faut dire que l'armée française, leur a mis quelques corrections dont ils se souviendront, ces pillards qui venaient du Libéria. Et deuxième raison, il n'y a plus Taylor. Alors, Taylor soutenait les rebelles dans cette lutte à front renversé que se menaient les ethnies locales.
Alors oui, tout ça nous amène à l'autre question abordée dans le numéro de l'Afrique réelle, qui est la politique des États-Unis en Afrique, à la faveur du voyage de George Bush. Nous avons évoqué la dernière fois les interventions quelque peu surprenantes à Gorée du président américain. Alors, de manière plus générale, qu'en est-il aujourd'hui de cette politique américaine en Afrique? Est-ce qu'il y a effectivement un développement de l'influence de Washington dans ces pays? Vous nous avez expliqué à plusieurs reprises que les Américains n'avaient qu'un intérêt très relatif et très limité pour l'Afrique. Est-ce que les choses sont en train de changer, d'évoluer, ou est-ce qu'au contraire les difficultés rencontrées au Proche-Orient les amènent à une grande circonspection, à une grande prudence?
Alors les médias qui sont émotifs comme des jeunes filles lors de leurs premiers émois, lors de premiers bals, se sont emballés sur la question de l'Amérique et l'Afrique, les États-Unis et l'Afrique. C'était dans le contexte de la guerre de l'Irak et partout, tout le monde s'imaginait que les États-Unis allaient évincer tous leurs concurrents et allaient véritablement être les nouveaux gendarmes de l'Afrique. Et j'ai toujours dit que c'était une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit pour deux raisons. La première, parce que les Américains raisonnent en économistes. Or, l'Afrique ne représente rien pour eux. Rien dans le commerce mondial et rien dans le commerce américain. L'Afrique représente 1,2% du commerce extérieur américain. Et ce 1,2% moyenne entre les importations et les exportations, ce 1,2% est réalisé pour 80% avec des matières premières et sur ces 80%, 80% pétrole réalisé avec quatre pays. Ce qui fait que les États-Unis sont intéressés par, pas par l'Afrique, mais par une Afrique, l'Afrique pétrolière. Et encore, pas par toute l'Afrique pétrolière, par l'Afrique pétrolière qui a des gisements en mer offshore. Parce que les gisements offshore sont faciles à garder. Il n'y a pas de lutte tribale quand un gisement est à 200 km au large, loin des côtes. Il y a des mouettes qui se promènent, il y a peut-être des baleines, il y a peut-être des requins, mais il n'y a pas de lutte entre les ethnies africaines. Donc là, on peut véritablement exploiter le pétrole et garder une zone sans aucun problème. Donc les Américains sont intéressés par une partie de l'Afrique. Alors ces pauvres Africains se sont laissés berner une fois de plus. Comme ils avaient été bernés par le président Clinton, ils ont été bernés par le président Bush. Et l'on remarquera que les grandes promesses américaines, les grandes messes américaines en Afrique se déroulent toujours à la veille d'années électorales. À la veille d'années électorales, l'on voit les présidents américains subitement s'intéresser à l'Afrique et faire toujours le même circuit. Le circuit est identique. Alors le circuit est un circuit émotif et émotionnel à l'usage du public américain. Ce sont des voyages à l'usage des électeurs américains. Alors on commence par Gorée et l'on pleure sur... On se bat la coulpe sur Gorée au lieu de l'esclavage, qui n'en a jamais été un. Nous en parlons longuement dans l'Afrique réelle. Et après avoir bien pleuré à Gorée, l'on va s'apitoyer devant les sidaïques. Alors on va en Afrique du Sud au Botswana, qui sont les deux pays les plus touchés par le sida. Et là on promet des sommes considérables pour aider ces pays et le continent à lutter contre le sida, comme si les sommes d'argent pouvaient lutter contre des pratiques sexuelles. Le problème, c'est qu'en Afrique, les pratiques sexuelles avec les deuxièmes, troisièmes bureaux, c'est-à-dire avec les maîtresses, avec le débordement de bonne santé sexuelle africain, fait que il est difficile de lutter contre le sida. En France, les gens ont des chiens qui mettent des crottes sur les trottoirs. Les gens ne font pas d'enfants, mais les Africains, sont portés par la puissance génésique. Bon, c'est cela. Bon, c'est une différence de civilisation. L'Europe est un continent de vieux, l'Afrique est un continent de jeunes. Bon. Et il faut bien le constater. Donc, ce n'est pas avec des méthodes d'art, ce n'est pas avec de l'argent que l'on luttera contre le sida. Et il faut, pour lutter contre le sida en Afrique, lutter contre les mentalités. Et comme le disait Einstein, on casse plus facilement les atomes que les mentalités. Bon. Donc, les Américains commence par les lieux de trait des esclaves pour faire pleurer Margot. Ensuite, ils vont s'apitoyer devant les malades du sida. Et ensuite, ils rendent visite à un ou deux pays africains qui sont des modèles de développement et de stabilité. Alors, généralement, l'Ouganda ou bien un pays très partenaire qui était auparavant le Nigeria. Maintenant, ils se méfient parce que la situation est mauvaise au Nigeria. Voilà. C'est le même voyage, le même circuit qui est fait par les présidents successifs, toujours en année électorale. En année électorale, pourquoi ? Eh bien, parce que la population noire américaine, ceux qu'on appelle les Afro-Américains, sont des électeurs. Il y a 25 millions ou 27 millions d'électeurs noirs américains. Or, ces électeurs votent aux trois quarts pour le Parti démocrate. Donc, les présidents démocrates y vont pour conserver leur clientèle démocrate. Et les présidents républicains y vont pour essayer de débaucher une partie des électeurs démocrates. Deuxième intérêt pour les Américains, et c'était le cas lors du voyage du président Bush, montrer que l'Amérique était une puissance généreuse. L'Amérique n'est pas intervenue en Irak pour le pétrole, bien entendu. La meilleure preuve, c'est que regardez que nous sommes généreux en Afrique, nous allons promettre. Demain, nous raserons gratis. Nous construirons des usines de vélos et peut-être même des usines de bicyclettes. Bravo, bravo, disent les Africains. Tout le monde attend la manne américaine. Seulement, ils l'attendent depuis les deux voyages du président Clinton, qui avait précédé le président Bush, et qui, dans les mêmes lieux, a fait les mêmes promesses. Alors, si on additionne les sommes faramineuses promises par Clinton et qui n'ont jamais été versées, aux sommes faramineuses qui ont été promises par Bush et qui ne seront jamais versées, on commence à comprendre que les Africains aient des doutes vis-à-vis de l'Amérique. Alors, il y a eu simplement ce pauvre président Wade, qui, lui, a cru, que pour argent comptant, les promesses américaines, et qui s'est véritablement prosterné devant le président Bush, ce qui a d'ailleurs provoqué des gros problèmes au Sénégal, parce que la visite du président Bush à Gorée a été une visite totalement scandaleuse. Songez donc que la population de l'île de Gorée a été extraite de ses maisons, chassée de ses maisons et regroupée sur le terrain de football de l'île, loin du président. C'est-à-dire, les habitants de Gorée ont découvert l'esclavage. L'esclavage n'a jamais été une réalité à Gorée. Là, ils l'ont connu pendant une journée avec la visite du président Bush. Dakar a été en état de siège. Et le président Wad a reçu le président Bush avec tous les honneurs, toutes les attentions, etc., en espérant des retombées. Les retombées sont ridicules. Le Sénégal va toucher un peu plus que ce qu'il touchait de l'aide américaine, mais l'aide américaine à l'Afrique est absolument insignifiante, puisque l'essentiel de l'aide américaine est versé à deux pays, qui sont l'Égypte, Israël et le Pakistan également. Alors donc, et en plus, maintenant que la guerre d'Irak, l'Amérique ne peut plus, n'a plus les moyens de développer des plans d'aide à l'Afrique. Ce qui fait que nous sommes dans le mensonge, dans l'hypocrisie totale. Et je dois dire que le gouvernement français à l'heure actuelle joue très bien. Joue très très bien, parce que dans un premier temps, les Américains, les Africains ont pensé pouvoir faire un chantage, et Gbagbo l'a bien montré, un chantage aux Français en disant « Ah, vous voulez pas nous aider ? Nous nous tournons vers l'Amérique. » L'Amérique a dit « Nous sommes là ». Et l'Amérique, une fois plus, a prouvé qu'elle n'était pas là, parce que l'Amérique est très égoïste, et l'Amérique s'intéresse à ses intérêts propres, sectoriels et parfaitement localisés. Ce qui fait que nous assistons en ce moment à un retour de la France en Afrique, un retour qui est tout à fait réel et qui est tout à fait intéressant dans le contexte. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut parler de l'intervention en Ituri. Même si, localement, l'intervention française en Ituri était maladroite, localement, elle était, dans le contexte général, tout à fait bienvenue, parce qu'elle a permis de resituer la France d'une manière avec efficacité et des intérêts. Donc, du point de vue de l'intérêt national français, si nous parlons intérêt national français, c'était bien joué. L'intérêt des populations du Congo, c'est une autre affaire. Je pense que c'était
en partie une erreur. Elle apparaîtra relativement tout à fait réussie par rapport à ce qui va suivre. Alors évidemment, ça avait un intérêt local.
Il fallait surtout Bounia
et la proximité immédiate. Le reste du pays n'était pas possible de le contrôler. Mais dans l'ensemble, c'est une intervention qui s'est pas trop mal passée.
Militairement, comme d'habitude, qui s'est bien passée. Alors donc, existe-t-il une percée américaine en Afrique ? Non. Non, parce que les Américains, à l'heure actuelle, sont en position véritablement d'attente. D'autant plus que tout le plan américain était basé sur la sous-traitance. De même que les Américains faisaient de la Turquie leur gendarme local dans cette région de la Méditerranée orientale, les Américains avaient voulu, de même, en Afrique, avoir des gendarmes locaux. Nigeria, Afrique du Sud. Or, l'affaire de l'Irak a fait éclater complètement cette double alliance. L'Afrique du Sud s'est heurtée aux Américains. L'Afrique du Sud a totalement emboîté le pas à la France. Et l'Afrique du Sud est très dure vis-à-vis de Clinton. Mandela a traité Clinton d'idiot. Bush a traité Bush d'idiot. Et c'est quand même des mots durs dans la bouche d'un ancien président, de cette icône mondiale qu'est Mandela. Et Bush a été accueilli très froidement. Il faut dire que Bush a cumulé les maladresses. Songez donc que Bush a passé un peu plus d'un jour et demi en Afrique du Sud. Et sur ce jour et demi passé en Afrique du Sud, il a passé l'essentiel de son temps avec des Américains. C'est-à-dire qu'il a reçu des industriels américains qui travaillent en Afrique du Sud, il est allé voir des firmes américaines installées, et il a quasiment pas vu les Sud-Africains. La presse sud-africaine l'a véritablement remarqué. Et quand on lit la presse sud-africaine quotidiennement, comme je le fais, on est frappé par cela. Donc des maladresses successives. Donc l'Afrique du Sud ne sera certainement pas le partenaire des États-Unis, pour cette raison, également parce que l'Afrique du Sud est en phase de tiers-mondisation, avec l'émigration des cadres blancs, et l'Afrique du Sud était un pays qui était un pays à la pointe parce qu'il avait à la fois la main-d'œuvre noire et les cadres blancs, mais les cadres blancs s'en vont, les uns après les autres. Je donnais ce chiffre il y a quelques mois. Il n'y a pas eu un seul médecin blanc de la promotion 2002 sud-africaine qui soit resté en Afrique du Sud. Ils sont tous partis. Et on trouve cela dans toutes les professions. Dès qu'un blanc en Afrique du Sud a un métier monnayable à l'extérieur, il part. Donc, premier problème, l'Afrique du Sud. Le deuxième pan de l'alliance que les Américains voulaient, du partenariat que les Américains voulaient faire avec l'Afrique, c'était le Nigeria. Et les Américains pensaient que le Nigeria allait pouvoir, avec sa masse démographique, donner les hommes qui allaient permettre de constituer des brigades d'intervention qui auraient permis aux États-Unis, avec encadrement américain et avec moyens américains, d'intervenir à la place des Américains. Le souvenir de la Somalie était encore cuisant et le sang des boys trop précieux pour être versé, et les Américains pensaient qu'ils allaient pouvoir sous-traiter ça au Nigeria. Plan qui était sorti à l'époque de Clinton, parce que Clinton et Obasanjo étaient tous les deux très apparentés, car ils étaient de la même secte baptiste américaine. Donc ils avaient une fraternité et une fraternité de chapelle. Et maintenant la situation a totalement évolué, parce que le Nigeria est un état qui est au bord de l'explosion permanente. Le Nigeria, l'armée nigériane a du mal à contrôler le propre pays. Alors comment voulez-vous que les Nigérians puissent être une force de le Nigeria peut avoir une force de projection en Afrique? D'autant plus que chaque fois que l'armée nigériane est intervenue à l'extérieur, ça n'a jamais été très brillant. En Sierra Leone, il a fallu que l'armée britannique intervienne pour établir l'ordre, parce que les Nigérians, en 2 ans et demi, n'avaient pas été capables de le faire. Et l'exemple s'est multiplié un peu partout. Ce qui fait que les États-Unis sont en position de repli à l'heure actuelle en Afrique. Et cette position de repli risque de s'accélérer avec les événements d'Irak. J'en reviens une fois de plus à l'Irak. Si les Américains s'en sortent en Irak, leur position en Afrique va être confortée. Si les Américains ont des problèmes en Irak, leur position en Afrique va être fragilisée. Et en ce moment, les Africains sont en train de faire, ceux qui étaient avancés vers les Américains sont en train de faire machine arrière, parce qu'effectivement, les Américains s'enlisent. Et les promesses n'ont pas été tenues, des promesses, toujours des promesses. L'Afrique attend toujours que les États-Unis mettent un aspect concret aux promesses qui ont été faites par Clinton, puis par Bush.
Oui, d'autant que la comptabilité montre que les efforts déployés en Irak, évidemment, représentent des sommes colossales. Et on ne peut empêcher les Africains d'imaginer que ces sommes pourraient être utilisées plus heureusement en faveur de leur développement. Alors, dernier point que nous devons aborder aujourd'hui à propos de l'Afrique, nous l'annonçons au début, c'est ce dossier de la revue L'Histoire, revue publiée par les éditions du Seuil, revue qui est vieille de 25 ans et qui nous a proposé pendant très longtemps une vision de l'histoire bien particulière, une vision historiquement correcte, dirons-nous. Et cette revue nous propose un dossier sur l'esclavage, d'un ton quand même tout à fait nouveau, puisque on met en lumière le fait que sur les 27 millions d'hommes ou de femmes arrachés à l'Afrique, eh bien, il y en a 17 qui lui auraient été arrachés par les négriers musulmans, ce qui est l'affirmation d'une chose que tout le monde savait, mais il était fort incorrect de l'évoquer jusque-là. Dans le même numéro et dans le même dossier, un article de Sylvie Brunel qui nous explique que l'idée selon laquelle l'esclavage sera responsable du sous-développement de l'Afrique est parfaitement infondée, et que les Africains, plutôt d'essayer d'accuser les autres, devraient s'en prendre à eux-mêmes et retrousser leurs manches pour assurer leur développement. Donc voilà un ton tout à fait nouveau et tout à fait intéressant, et je pense, Bernard, que tout cela s'est quand même fait pour vous satisfaire. Ça va un petit peu dans votre sens, puisque déjà depuis de nombreuses années, l'Afrique, l'histoire à l'endroit, et puis dans de nombreux articles de l'Afrique réelle, ce sont des choses que vous aviez eu l'occasion de mettre en lumière. Pendant longtemps, vous prêchiez seul dans le désert. Aujourd'hui, tout cela commence à rencontrer des échos tout à fait officiels, en quelque sorte, dans la presse bien-pensante.
Oui, dans la presse bien-pensante, désamorce des bombes à l'avance. Parce que ce qui est intéressant dans le dossier de l'histoire, qui est très mal fait, très incomplet, très partiel, et qui, au point de vue scientifique, ne tient pas la route. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que chez l'adversaire intellectuel, la question est tellement importante qu'il est obligé de venir sur des positions qui étaient des positions que nous défendions depuis 20 ans. Il le fait en ayant l'impression de se donner comme un esprit libre. Le titre du dossier, la vérité sur l'esclavage, n'a pas attendu la revue L'Histoire. Dans l'Afrique Histoire à l'endroit que j'ai publié en 1990, j'avais un chapitre qui s'appelait la vérité sur la traite des Noirs. Sur la traite musulmane, Murray Gordon, en 1986, a consacré un livre. J'ai consacré un livre à la question. Jacques Ayres, qui est venu ici l'année dernière, a consacré un livre tout à fait intéressant à la question aussi. Jamais l'histoire n'a mentionné ces ouvrages.
Oui, excusez-moi, je signale quand même que dans la biblio de tout ce dossier, le livre de Jacques Ayres qui vient de sortir il y a quelques mois n'est même pas mentionné. C'est quand même extraordinaire. On mentionne son livre sur l'esclavage en Europe, en Italie notamment, dont il a parlé l'autre jour, mais son livre récent, qui est dans toutes les librairies, n'est pas mentionné dans la biblio.
On ne mentionne pas non plus le livre de Murray Gordon, qui en 1986 avait été le premier à parler de la traite arabe. C'est tout de même extraordinaire. Alors, les gogos vont se dire, mais quel esprit libre que cette rédaction de la revue L'Histoire. Regardez, ils disent les choses, c'est magnifique. Alors que, il s'agit là, au contraire, on désamorce une bombe. Pourquoi? Parce que la vérité leur claque à la figure. La vérité leur claque à la figure de tous les côtés. Car les travaux scientifiques dans le monde anglo-saxon, une chose pareille ne serait jamais arrivée dans le monde anglo-saxon. Parce que les revues d'histoire grand public dans le monde anglo-saxon sont des revues qui sont réalistes et qui sont ouvertes et qui parlent de cela. Elles en parlent. Et il n'y a qu'en France où l'on soit dans ce système stalinien de la pensée. Donc, pour éviter de se faire dépasser par l'événement, l'on affecte de le connaître et de le précéder. Mais alors, avec une distorsion et avec des circonvolutions qui sont extraordinaires. Je vais vous citer le journal Le Monde d'aujourd'hui. Le Monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire daté du mercredi 8 octobre, page 17. Un tiers de la page est consacré justement à cette question. Titre. Toute la vérité sur le plus grand commerce d'esclaves. Enfin, il est temps de lever les tabous. Enfin, comme si...
Qui entretenait les tabous?
Qui entretenait les tabous? Enfin, mais si la revue L'Histoire, si le journal Le Monde et la revue L'Histoire avaient lu les livres de Ayres, avaient lu mes livres, avaient lu le livre de Murray Gordon, ils sauraient que ces tabous sont levés depuis 20 ans. Mais attendez, le plus extraordinaire, chers auditeurs, écoutez bien cela. Je vais citer le journal Le Monde. Spécialiste des traites négrières, il cite un auteur... je ne citerai pas son nom à l'antenne, c'est un illustre inconnu, mais peu importe, il est spécialiste des traites négrières. Bon, mais Jacques Ayres, qui lui a sorti un livre là-dessus, n'est pas spécialiste des traites négrières, bien sûr, parce que bon, alors, il n'est pas de la confrérie, donc c'est pas la même chose. Alors, spécialiste des traites négrières, X, avance plusieurs raisons pour expliquer ce silence surprenant. C'est surprenant, tout de même, comment se fait-il que... Alors, mais Ayres, c'est surprenant. Alors, les causes, par Le Monde et par ce spécialiste. La guerre froide en est une, qui, en rapprochant l'Afrique noire et les pays musulmans sur des bases idéologiques, on aimerait bien savoir lesquelles d'ailleurs, a occulté pendant des décennies toute recherche un tant soit peu critique. Deuxième raison, s'y ajoute l'absence d'intérêt des intellectuels orientaux pour la question, parlant de la traite musulmane. Passé muscade. Alors, c'est parfaitement hypocrite cet article, pour ne pas dire intellectuellement malhonnête. Pourquoi? Parce que, pour quelle raison y a-t-il eu ce tabou qui était imposé précisément par Le Monde, qui était imposé précisément par la revue L'Histoire? J'ai envoyé 10 manuscrits à la revue L'Histoire. Moi, par 10 fois, j'ai envoyé des articles à la revue L'Histoire. Jamais la revue L'Histoire ne m'a passé un seul article. Même une fois, la revue L'Histoire m'avait commandé un article, et je l'ai envoyé et il a été refusé. Mais évidemment, je disais que la colonisation avait coûté plus à la France qu'elle n'y avait rapporté. C'est un article que j'avais écrit dans les années 1990-91.
Alors, Jacques Marseille a montré depuis également, tout Jacques le monde Marseille est d'accord là-dessus maintenant.
Et Jacques Marseille auparavant, car c'est lui qui est l'initiateur de cela, avait montré d'une manière chiffrée cette question. Moi, je faisais une comparaison avec également le monde anglo-saxon, etc. Alors, pourquoi ce tabou? Tout simplement parce que l'idée dominante est qu'il n'y avait de coupable que l'homme blanc. Les musulmans ne peuvent pas être coupables de la traite. Si l'on parle de traite des esclaves, ce sont les blancs. l'on a totalement nié le fait que la traite africaine était réalisée par une partie de l'Afrique. Une partie de l'Afrique vendait l'autre partie de l'Afrique. Mais ça, Murray Goulden le dit depuis 86, moi je le dis depuis 20 ans. Certains auteurs de vulgarisation qui prennent à droite et à gauche sans toujours citer le disent récemment aussi, bien avant la revue L'Histoire.
Et ce que vient de confirmer une assemblée d'évêques réunis à Dakar, qui ont dit que les Africains devaient s'en prendre aussi à eux-mêmes parce qu'ils avaient eux-mêmes vendu leurs frères et que...
Alors donc cette vérité est en train d'éclater. D'éclater, parce qu'on peut toujours faire des lois contre la vérité historique, l'on peut toujours décréter des tabous, l'on peut toujours mettre des barrières et dire que l'on ne citera pas les auteurs mal pensants. La vérité finit toujours par sortir. Et elle sort pourquoi, cette vérité? Parce que la France, qui est quasiment l'Albanie intellectuelle des années 1980-90, la France est un petit confetti à l'échelle du monde. Lorsque l'on lit les ouvrages anglo-saxons, moi je lis tous les jours la presse africaine anglo-saxonne, je lis par ma profession d'universitaire, je lis les travaux qui sont faits aux États-Unis, je lis les travaux qui sont faits en Angleterre. Cette question est traitée depuis 20 ans et est réglée une fois pour toutes. Il n'y a qu'en France où cette question soit encore un tabou. Et comme les bons esprits se rendent compte que la ligne Maginot française est emportée, la France, dans ce système de mondialisation intellectuelle, n'existe plus comme elle existait auparavant, eh bien, pour ne pas paraître pour des ringards, ils s'accrochent au wagon de queue. Regardez, nous aussi, on l'avait dit, vous voyez. Regardez, on avait dit qu'il y avait quand même une traite musulmane, et puis que, bon, effectivement, il n'y a pas eu 100 millions d'esclaves déportés par les Blancs, il y en a eu 14 millions, mais... Les anglo-saxons le disent depuis 1968. La première publication traitant de cela, c'était l'histoire de l'Afrique de Fage, 1968. Depuis 1968, les universitaires anglo-saxons ont démontré, chiffres à l'appui, quels étaient les véritables chiffres de la traite. Il faut attendre le 8 octobre 2003. Alors, 1968, pour les publications universitaires anglo-saxonnes, 8 octobre 2003, pour que le parangon de la pensée unique et de la bonne presse officielle reconnaissent cette vérité scientifique. C'est pas mal, 30 ans. 30 ans. Ah, tout simplement parce que l'idée qui était dominante, c'était de dire il n'y a de péché commis que par l'homme blanc. Il n'y a de crime commis que par l'homme blanc. Et dire que la traite musulmane est antérieure à la traite européenne, et qu'elle a été postérieure à la traite européenne, ça fait très mal. Ça veut dire que l'Européen ne serait pas le seul coupable. Mais c'est affreux, mon cher docteur, de nous dire cela. Pierre Demeuse, vous vouliez intervenir?
Oui, je voulais intervenir pour rappeler que un cinéaste sénégalais, Sem Ben Ousmane, avait fait un film sur ce sujet, qui s'appelle Tiddo, et qui d'ailleurs a été interdit pendant plusieurs années au Sénégal, mais c'est un film qui doit dater de 75 et qui montre très clairement combien l'islamisation était liée à l'asservissement des Africains.
Mais les Africains le savent, bien entendu, de même que l'affaire de Gorée. Les historiens de l'université de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop, l'association des historiens sénégalais a publié depuis 10 ans des articles disant « De Gorée n'a jamais été un centre de traite ». Et la fameuse maison des esclaves, c'est une totale imposture. L'on nous dit qu'elle a été construite par les Hollandais à l'époque de la traite. Mais c'est une imposture, c'est une folie scientifique. Elle a été construite en 1785 par une métisse, une signare, qui s'appelait Anne Colas, qui s'est fait construire une grande maison. Et en 1785, quand cette maison était construite, il n'y avait plus de traite d'esclaves dans cette partie de l'Afrique, en Sénégambie. Alors, il y avait bien sûr des esclaves domestiques. Quant aux cellules que l'on nous présente, ce ne sont pas des cellules, ce sont des entrepôts de marchandises. Quant à la porte par laquelle embarquaient les esclaves, elle donne sur des rochers. Les navires ne pouvaient pas arriver. C'est tout simplement une porte qui permettait de jeter les détritus à la mer ou d'avoir accès aux rochers, mais certainement pas un port d'embarquement. Mais les historiens sénégalais le disent. J'ai les publications des historiens sénégalais. Les publications des professeurs, de mes collègues de l'université de Dakar, tout le monde le dit. Mais en France, non. Alors on attend de voir maintenant un article de la revue L'Histoire sur Dakar. Ils vont découvrir que Gorée, peut-être dans 10 ans, mais je leur envoie l'Afrique réelle d'ailleurs, pour leur montrer que nous avons déjà traité le sujet plusieurs fois, depuis des années. Alors, ceci est tout à fait intéressant parce que, disons-le, je crois qu'intellectuellement, nous sommes en train de gagner. Intellectuellement, c'est évident. Nous sommes en train de gagner. Les tabous tombent de tous les côtés. L'ennemi ne sait plus où il en est. Il chancelle sur ses bases. Il ne sait plus où sont ses points de repère. Nous avons nos points de repère. Et aucun problème de ce côté-là. Et la vérité historique est en train d'arriver, est en train d'éclater. Ce dossier publié par la revue L'Histoire, lorsque l'on connaît un peu la guerre révolutionnaire, lorsque l'on connaît un peu lorsqu'on sait analyser la pensée marxiste ou post-marxiste, nous savons le faire. Nous avons été formés aux bonnes sources, au contact de ces gens-là depuis notre adolescence, n'est-ce pas, Philippe Conrad? Nous avons fréquenté, n'est-ce pas, Pierre Demeuse? N'est-ce pas, nous les connaissons, nous savons comment ils réagissent. Nous connaissons les Trotskars, nous connaissons. Pour que la revue L'Histoire soit obligée de faire un dossier qui n'apporte rien du tout, mais qui a le mérite d'exister, mais cela veut dire que le déferlement intellectuel est là, la marée du politiquement correct est en train de disparaître, les digues sont en train de sauter, et je crois que nous sommes en train de gagner. Et nous le voyons tous les jours. L'adversaire est en train de perdre intellectuellement, il ne sait plus où il en est. Les adversaires en général, d'ailleurs. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce dossier sur l'esclavage, parce que nous sommes en présence d'une affaire tout à fait importante. Parce que toute la question des réparations. Alors, au même moment, l'on nous met dans les pattes l'affaire d'Haïti. L'indemnisation d'Haïti. On en parlera une autre fois d'Haïti, parce que nous sommes également dans l'imposture.
21 milliards de dollars réclamés par le président Aristide.
Une pause musicale, s'il vous plaît. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Becquetch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Bonsoir Dominique Vénère, qui vient de nous rejoindre. Vous étiez pris dans les embouteillages.
Bonsoir Bernard.
Oui, oui. Gros embouteillage aujourd'hui dans Paris.
Oui, oui, très désagréable, c'est une chose fréquente.
Et quand on marche, quand on est à pied, on slalome entre les crottes de chien.
Le bonheur maintenant de se retrouver dans ce studio en votre compagnie.
Bien. Victoria, des questions d'auditeurs.
Oui. Une auditrice vous demande, qu'en est-il du pétrole qu'on aurait trouvé le long de la Côte d'Ivoire? Ce pétrole existe-t-il vraiment? Et cette guerre civile n'aurait-elle pas comme raison que cette richesse nouvelle?
Continuez les questions, nous répondrons ensuite.
Un auditeur, vous n'avez pas évoqué la présence d'une importante colonie française en Côte d'Ivoire, ce qui est un paramètre à prendre en compte si l'on veut que la France tranche rapidement. Et un auditeur, les enfants sont beaucoup plus au courant que les adultes de la traite des Noirs par les Arabes, car lorsqu'ils lisent « 5 semaines en ballon » de Jules Verne, il y a beaucoup de questions de cette traite à partir de Zanzibar.
Combien d'enfants lisent encore « 5 semaines en ballon » malheureusement?
Hélas.
Oui, là, évidemment. Et si les enfants lisaient également Stanley Burton, Grant et Speke, ils auraient également ça, mais ils ne les lisent plus. Les romans d'aventure que nous lisions, les livres d'histoire et d'aventure que nous lisions, nous, durant notre jeunesse, ne sont plus lus aujourd'hui. Alors,
et pourtant, notre jeunesse est récente.
Elle est notre jeunesse.
Oui, je dirais même qu'elle est toujours présente.
Du temps de notre adolescence. Voilà, ce serait notre jeunesse d'esprit est là. Victoria, encore une question.
J'ai vécu en Afrique. Pourquoi ne dit-on pas que les pygmées sont réduits en esclavage par les Africains?
Bon, de nombreuses questions. Nous allons essayer de résumer cela. Alors, sur le pétrole en Côte d'Ivoire, il est évident que tout le littoral de cette partie de l'Afrique, soit recèle des certitudes, soit des promesses de pétrole. Bien. je ne pense pas que cette question soit déterminante dans l'éclatement de la crise actuelle. Deuxième question concernant la communauté française en Côte d'Ivoire. Oui, une communauté importante. Il est évident que dans tous les paramètres de choix du gouvernement français, cette communauté tient un rôle tout à fait déterminant, car cette communauté est la plus forte communauté expatriée française en Afrique. Je crois même qu'elle est plus importante que la communauté expatriée au Maroc. Si ma mémoire est bonne. Donc ceci est important. Mais ceci n'explique pas pourquoi le Nord et le Sud se battent. Je ne reviendrai pas sur cette question. Nous l'avons longuement traité ici à l'antenne. Je ne vais pas refaire l'émission que nous avons pu faire il y a quelques mois. Autre question que vous nous posiez.
Ils ne sont pas directement sur le sujet.
Ah bon, alors ce n'est pas sur le sujet, hors sujet, et nous la traiterons une autre émission.
Je suis brave, mais pas téméraire.
Non, c'est une question aussi sur la conquête de la Lune. On verra ça une autre fois. Mais l'Afrique, s'il vous plaît.
Il s'agit de la guerre des gangs au Cap, à Menenberg. Il y a eu un reportage d'Arte.
Alors, nous ferons.
Est-ce que vous êtes.
Nous ferons une émission entière consacrée à l'Afrique du Sud au mois d'avril. Car au mois d'avril sortira un numéro spécial de l'Afrique réelle consacré à l'Afrique du Sud après une décennie de pouvoir ANC. Donc on parlera de ça à ce moment-là. Bon, nous allons peut-être nous arrêter là parce que il est 7h05 et nous avons deux autres thèmes à traiter. Victoria, pas d'autres questions ?
Et ben c'est
bon. Non, mais très bien. L'atmosphère à Pointe-Noire, lourde en ce moment.
Et qui a lancé cette affaire de Gorée, à votre avis ?
L'affaire de Gorée a été lancée tout simplement par un Sénégalais, un vieux Sénégalais qui est un griot, qui habite sur l'île de Gorée. Et c'est lui qui reçoit tous les visiteurs, qui leur fait visiter la maison des esclaves. C'est lui qui a inventé totalement cette histoire. Et il suffit pour cela de lire les publications du père de Benoît, qui est professeur à l'université, qui est professeur à l'université de Dakar, et qui est un spécialiste de l'esclavage, et qui a bien traité cette question. Et ceci est parfaitement expliqué. Il suffit également de lire les publications de l'association des historiens sénégalais. Donc, ce vieux Sénégalais a trouvé un filon. Et comme il est vieux et qu'il raconte bien, eh bien la légende racontée par ce griot est devenue vérité historique devant laquelle se sont inclinés successivement le président Clinton, le président Bush, le Saint-Père, car le pape est venu également battre sa coulpe à Gorée sur un lieu où il n'y a jamais eu de traite d'esclaves. Il y a eu par an, au pic de la traite, 150 à 200 esclaves qui passaient. Et on nous présente Gorée comme le point emblématique. Alors que il existe des lieux emblématiques. Il existe. J'en citerai deux. Si l'on veut vraiment placer des points emblématiques de la traite des Noirs en Afrique, il faut aller au Ghana et il faut aller à Elmina ou à Cape Coast. Les deux forts gigantesques qui avaient été créés par les Anglais et Hollandais qui sont encore en place et qui étaient des esclaveries, de véritables esclaveries. Alors, si l'on nous dit Cape Coast, Elmina sont des centres emblématiques de la traite, je dis oui. Si l'on me dit Gorée, je dis plaisanterie, je dirais même foutaise. Et maintenant, la situation est très claire sur ce sujet. Il n'y a plus que le journal Le Monde pour le croire. Pas Le Monde. Le Monde a été très honnête à propos de Gorée. Le Monde a été le seul journal grand public il y a 5 ans à parler de la légende de Gorée, en disant Gorée n'est pas une réalité. Le Monde avait repris les travaux du père de Benoît. Et Jeune Afrique a été remarquable. Jeune Afrique, l'intelligent, a été remarquable il y a 3 semaines en publiant une page entière de réponse du père de Benoît, qui vit à Dakar, en disant « Vous avez raconté des bêtises, il n'y a pas eu de traite d'esclaves à Gorée, la porte des esclaves ne servait pas à la traite, la maison des esclaves n'en était pas une, et vous avez complètement pris à votre compte les délires, les affabulations de... »
J'ai plus le nom. John Yai.
John Yai, c'est ça, voilà. Vous avez repris à votre compte les affabulations de ce vieux Sénégalais. C'est intéressant. Vous voyez, ça avance en ce moment. Ça avance. Il y a des percées partout, involontaires, mais les percées qui se font.
Gorée me rappelle la visite du château d'If où l'on nous montre la cellule de l'abbé Faria.
Oui, puis on nous montre également à Nérac le crâne d'Henri IV enfant et le crâne d'Henri IV adulte. C'est pas si c'est du même niveau. C'est à peu près du même niveau.
Et on peut lire également, pour s'inscrire, la dernière partie de Terre des Hommes de Saint-Exupéry.
Bien. Victoria.
Peu m'importe qui a fait la traite des Noirs, nous dit cet auditeur. Ce qui m'importe, c'est le mépris souverain du maître à l'égard de l'esclave. Monsieur Lugan, vous ne faites pas assez référence à cela.
Bon, et vous serez flagellé, monsieur Lugan, très sévèrement. Seulement, il faudra bien m'attraper et bien me tenir et pas me lâcher après. Bien, une pause musicale. Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Becquet, se dirige ce soir par Bernard Lugan. Nous avons parlé de l'Afrique durant cette première partie. Nous allons maintenant parler... Oui, Victoria.
Je vous rappelle l'adresse éventuellement de l'Afrique réelle.
Ah oui, très bonne idée.
Boîte postale 6, 0340 à Charroux, avec deux R. Abonnement 1 an, 4 numéros, 68 euros. Et puis une auditrice nous signale que dans Présent d'aujourd'hui, il y a un quart de page consacré à votre revue dont c'est le 10e anniversaire.
Ah, ben c'est très bien. Bon, très bien, écoutez, merci. Parfait. Merci, chère auditrice, de nous le signaler. Je pense que je vais le recevoir à la maison. Alors, nous allons parler maintenant du livre de Jean-Claude Vallat, Georges Valois, de l'anarcho-syndicalisme au fascisme. Alors, Jean-Claude Vallat, vous dirigez cette collection Les Cahiers Libres d'Histoire. Nous vous avons déjà reçu plusieurs fois, car ces livres sont tout à fait passionnants, tout à fait intéressants. Ce livre est le numéro 11, ce cahier libre, donc ce livre, est le 11e que vous publiez. Et ce livre est consacré à un personnage peu connu. Enfin, nous le connaissons, ce personnage, mais le grand public ne le connaît pas, ou le connaît très peu. Personnage qui a été très controversé, personnage qui a été très combattu, d'abord par l'Action française. Nous souvenons ce qui s'est passé au moment de la Grande Querelle, nous en parlerons tout à l'heure. Personnage qui a marqué la famille nationaliste dans une certaine mesure, et peut-être un personnage qui était précurseur de certains courants. Alors, Georges Valois est connu d'abord pour être le fondateur d'un mouvement qui s'appelait le Faisceau. Et le Faisceau est le premier parti français qui s'est réclamé du fascisme. Or, dans votre livre, que vous sous-titrez, donc Georges Valois sous-titré de l'anarcho-syndicalisme au fascisme, vous ne parlez pas du Faisceau, puisque vous vous arrêtez à la période 1912-1913, donc à une époque où le mot fascisme n'a pas encore été inventé par Mussolini. Alors, n'est-ce pas anachronique, n'est-ce pas paradoxal ?
Valois a vécu 66 ans, et le Faisceau n'a duré guère plus de 2 ans. Ce qui permet déjà de relativiser dans la vie de Valois le Faisceau. Alors bien sûr, c'est un épisode important de sa vie, mais il ne faut pas oublier le reste. Et ce que j'ai voulu essayer de comprendre, c'est comment un homme comme Valois, qui avait reçu une éducation républicaine très stricte, qui avait fréquenté et suivi les milieux anarchistes et anarcho-syndicalistes, qui avait été Dreyfusard, comment cet homme avait pu évoluer de ses idées de jeunesse vers l'antisémitisme, vers la monarchie et vers le fascisme. Alors, bien sûr, je m'arrête avant la guerre de 14-18. Le faisceau fera l'objet probablement d'un autre cahier, parce que c'est un sujet en soi, mais j'ai voulu essayer de comprendre cette évolution. Et le mot, bien sûr, fascisme est complètement anachronique pour la période qui précède la guerre de 14-18, mais dans la pensée de Valois, du Valois encore à l'Action française, car avant la brouille, il y a eu quand même le grand amour qui a duré près de 20 ans. La pensée de Valois en 1910, c'est une pensée dans laquelle il y a les deux ingrédients, l'ingrédient principal du fascisme, c'est-à-dire la volonté de synthèse entre le nationalisme et le socialisme ou le syndicalisme. Et on retrouve chez Valois non seulement cette volonté de synthèse, mais il y a également un élément important de ce que sera le fascisme et de ce qui marquera l'évolution de Mussolini en Italie, c'est la volonté, enfin le désir de, ou plus exactement l'idée que la guerre est un moyen de régénération des peuples. Là, je dirais que Valois n'est pas le seul à le penser à cette époque. René Quinton disait à peu près la même chose, dans des termes différents, bien sûr. Mais cette idée de l'importance de la guerre et l'apologie des vertus guerrières, qui est faite non seulement par Valois, mais par certains de ses amis anarcho-syndicalistes, est quelque chose qui permet, avec un peu d'anachronisme, de parler de fascisme.
Alors c'est un personnage tout à fait intéressant, Georges Valois, de son vrai nom, Alfred Georges Graissinthe, qui a eu une vie tout à fait passionnante, parce que il est toujours resté viscéralement anti-allemand.
Oui, ça c'est une constante.
Il a été déporté. Il était suspect d'être gaulliste en 40-41, déporté par les Allemands en 1944. Deux camps difficiles, Neuengamme et Bergen-Belsen, et il meurt. Il meurt en déportation.
Il meurt en déportation,
emporté par une épidémie de typhus. Il est à ce moment-là au camp de Bergen-Belsen. Alors, c'est étonnant de voir ce personnage, un fasciste ou un pré-fasciste, qui est gaulliste, qui est anti-allemand, qui meurt en déportation, qui est anarcho-syndicaliste.
Mille facettes. Je ne suis pas sûr que Valois ait été vraiment gaulliste, mais peu importe.
On le suspecte.
Ce qui est sûr, c'est que c'est un personnage qui, au départ, vient, disons, des milieux républicains, passe par l'anarcho-syndicalisme, passe à la monarchie, à l'Action française, disons, après au fascisme. Il reste peu de temps dans le fascisme, dès 1928, il fait marche arrière, revient à des idées de gauche. Il est un compagnon de route du Front populaire. Il n'aime pas Léon Blum, qu'il comparait d'ailleurs à Maurras, mais c'était une suprême injure.
Ah oui.
Sous sa plume.
Et il le comparait pourquoi à Maurras?
Parce que pour lui, Blum et Maurras étaient des intellectuels désincarnés. Bon, je.
Oui. C'était. Dixit de Valois.
Dixit de Valois. Et Valois se trouve effectivement au Maroc en 1940.
Que fait-il au Maroc en 40? Il est mobilisé?
Non, il n'est pas du tout mobilisé, et il n'est plus mobilisable vu son âge. Simplement, il se trouve au Maroc, et pour des raisons que j'ai oubliées, mais peu importe. Et comme il y a évidemment une agitation en Afrique du Nord au moment de la défaite et de l'armistice, il a dû se faire remarquer par des propos qui n'étaient pas des propos conciliants à l'égard des Allemands. Il est arrêté, interné à Meknès, rapatrié en France, jugé à Clermont-Ferrand et acquitté. Donc, il a été acquitté et c'est après, effectivement, pour des activités de résistance dans le mouvement franc-tireur, qui ne pas confondre avec les FTP communistes, c'est le mouvement franc-tireur de Jean-Pierre Lévy, et des liens avec Henri Freinet aussi, puisqu'il était installé à ce moment-là dans le Beaujolais, près de Lyon, donc il avait des contacts assez, enfin épisodiques, mais assez réguliers quand même, avec ces milieux de résistance, et donc, effectivement, les Allemands l'ont arrêté en mai 44 à Lyon.
Déporté.
Déporté.
Et il meurt en déportation.
Il meurt en déportation.
Pierre Demeuse, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je voudrais dire justement à propos de, du personnage de Georges Valois, que dans votre livre, vous dévoilez une partie du personnage, mais il n'en demeure pas moins quelque peu énigmatique. Parce que on a du mal à trouver les raisons de ces revirements. Il commence par être républicain, républicain très jacobin, très laïcard, puis il se lance dans l'anarchisme, l'anarcho-syndicalisme, et on n'arrive pas très bien à comprendre ce qui l'a amené, avant de connaître Maurras, de se rallier à la monarchie.
Oui, c'est une question importante.
Effectivement. Alors.
Parce que Maurras est un des trois personnages ayant une grosse influence sur Valois, avec Sorel et Nietzsche. Donc il se rallie avant de connaître Maurras.
Avant de connaître Maurras. Et il demande un entretien à Paul Bourget, nous dites-vous,
oui,
qui lui conseille d'aller voir Maurras.
Oui.
Alors là, c'est quelque chose de fascinant. On se demande ce qui pouvait conduire ainsi Georges Valois à la monarchie.
Oui. Alors, je ne parlerai pas de son évolution ultérieure. C'est son retour en arrière ou celui-là.
Bien sûr.
Bon, mais en ce qui concerne son évolution, de cette position républicaine, qui était celle d'ailleurs de ses grands-parents qui l'ont élevé, vers l'anarchie, d'abord tout est une question un peu de circonstances, et l'évolution après vers les idées monarchiques aussi. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que Valois part à 17 ans à Singapour, tout seul. Parce que il a du mal à gagner sa vie en France, et le goût de l'aventure, il se trouve qu'il y a un Français là-bas qui fait ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'import-export et qui a besoin d'un commis, donc il part, et il va à Singapour, qui est une colonie britannique, mais qui est un carrefour de peuples, de religions, de races, ce qui pour lui, évidemment, à 17 ans est une aventure prodigieuse, et au retour, après un petit détour à Saïgon, où il trouve un livre, qui est un livre de Jean Richepin, qui est en fait une biographie arrangée de Jules Vallès. Et Richepin, ce livre va avoir une grosse influence sur lui, et Richepin aussi. Il ne connaît pas Richepin, il ne le rencontrera pas, mais Richepin va exercer sur lui une influence. Or, qui est Richepin? Richepin est un personnage qui va également évoluer tout à fait bizarrement. Richepin est un fils de médecin militaire, donc issu d'une bonne famille, qui est normalien, donc qui là aussi a fait de bonnes études, mais qui est un bohème et un excentrique, et qui en fait va s'inventer une ascendance touranienne, donc des bohémiens qui seraient venus dans son village natal, l'un aurait épousé une fille du coin dont il serait l'héritier. Tout ça évidemment fait avec beaucoup de provocation. Richepin est connu à Montparnasse pour ses excentricités, mais Richepin, au début du XXe siècle, dans les années 1910, va évoluer vers la droite, vers des positions ultranationalistes, vers des positions où il va faire l'éloge de la guerre. Je cite d'ailleurs, je crois, quelques vers d'un poème qui est assez médiocre d'ailleurs, de Richepin là-dessus. Et Richepin va être élu à l'Académie française et reçu sous la coupole par Maurice Barrès. Et voilà un itinéraire tout à fait étonnant, on a du mal à comprendre aussi. Or, c'est le premier homme qui a exercé sur Valois de l'influence.
Dominique Vénère.
Oui, je pense qu'il faut se souvenir que dans l'histoire politique française et dans l'histoire des idées, toute la période qui précède 1914, disons des années 1880 à 1914-1910, ce sont des années de rupture très importante, rupture en matière politique et rupture en matière d'idées. Ces ruptures se font tout à la fois, pour simplifier, se font à la fois chez des hommes qui viennent de la gauche socialiste, de l'anarcho-syndicalisme, etc. Et par ailleurs, d'autres qui viennent de ce que l'on appelle habituellement la contre-révolution, c'est-à-dire des gens de droite. La première fracture se fait à l'époque du boulangisme, où l'on voit une conjonction de personnages, de groupes d'origine tout à fait opposés et qui vont se retrouver ensemble. Alors, ils se retrouvent ensemble pour plusieurs raisons. Ils sont animés, pour certains, par le désir de la revanche, déjà. Pour d'autres, parfois les mêmes, par le refus de la République qui se met en place à cette époque-là, donc le refus d'une certaine démocratie telle qu'elle est pratiquée en France à l'époque. Cela pour essentiellement les milieux de droite, mais pas exclusivement, parce qu'il y a des républicains de gauche qui sont également des nationalistes et qui considèrent que la République telle qu'elle est, la République opportuniste, ne répond pas aux nécessités qui sont celles de la France à l'époque. Et puis, un autre secteur d'opinion va être également en rupture, va se trouver en rupture. C'est tout un courant socialiste. Et cette rupture chez les socialistes ne va pas cesser jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et non seulement c'est une rupture que l'on observe en France, mais que l'on observe ailleurs en Europe, notamment en Italie. Ce qui entraînera la naissance ou l'évolution de certains socialistes italiens, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, Benito Mussolini, vers quelque chose d'autre. Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Pourquoi cette rupture chez les socialistes? Ce qui concerne, dans une certaine mesure, Valois, en raison de ses origines. C'est-à-dire qu'il est, lui est mêlé à tout ce bouleversement général des idées dans cette période. Pour les socialistes, dont, à sa façon, Georges Sorel, que vous évoquez longuement, à juste titre, dans votre livre, dont Georges Sorel est le témoin, s'il y a rupture chez les socialistes, c'est sans doute d'abord parce que, au-delà des années 1880, ils ont le sentiment que le marxisme n'est plus la bonne réponse. Ils récusent le déterminisme marxiste, ils ont le sentiment que le prolétariat n'est pas la classe révolutionnaire que prétendait Marx. Ils ont le sentiment, en quelque sorte, d'un embourgeoisement du prolétariat. Et donc, ils sont à la recherche, parce que eux restent des révolutionnaires, c'est-à-dire qu'ils veulent renverser le système social et politique, ils veulent renverser le pouvoir de la bourgeoisie. Le pouvoir de la bourgeoisie, qu'est-ce que c'est? C'est la démocratie. Et sur ce thème du renversement du pouvoir de la bourgeoisie et de la démocratie, vont se réunir des gens qui viennent de la gauche socialiste la plus radicale et des hommes qui viennent de la droite, si l'on peut utiliser ce terme, également radical, et notamment de la contre-révolution. Ça va être un point d'accord, pour simplifier les choses, ça va être un point d'accord entre eux. D'autre part, comme vous le disiez tout à l'heure, ces mêmes socialistes vont se retrouver aussi intellectuellement aux côtés d'hommes qui viennent d'horizons totalement différents, parce qu'ils ont le sentiment que le moteur de l'histoire, ce n'est plus la classe, là aussi, comme le disait Marx, mais c'est la nation. Et cette idée que la nation et le nationalisme est un phénomène dynamique, énergétique, puissant, actif, il ne se trompe pas d'ailleurs, car en effet, dans ces années-là, c'est un phénomène d'énergie et de mobilisation d'énergie immense partout en Europe. C'est pas particulier à la France. On aura des conséquences parfois négatives lors de la Première Guerre mondiale, bien entendu. Mais à la veille de la Première Guerre mondiale, ce sentiment que ce n'est plus la classe qui est le facteur révolutionnaire, mais que c'est la nation qui est le facteur révolutionnaire, ça va être perçu en France par des gens comme Valois, Sorel, etc. Et ça sera perçu, évidemment, en Italie, notamment par Mussolini, ce qui explique l'interventionnisme de Mussolini, qui est un, c'est-à-dire la partie, la, le désir de Mussolini de participer à la guerre, ou de faire que l'Italie participe à la guerre, parce que il voit dans la guerre un instrument révolutionnaire.
De passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie à 21h. Tout à l'heure, je passerai une heure avec vous, avec grand plaisir, pour Série Jazz. 22h, rendez-vous avec Claudio pour les musiques de films. Et à 23h, les grands pianistes, suite de cette série consacrée ce soir à Van Cliburn, qui nous jouera des œuvres de Chopin. Tout cela à partir de 9h ce soir. Et puis maintenant, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Beyketch. Vous écoutez Radio Courtoisie. Bonne soirée, les 19h30. Radio Courtoisie.
La radio libre du pays réel.
Et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beyketch, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan avec l'assistance de Victoria. Diffusé en direct mercredi 8 octobre 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 9 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le Libre Journal de Serge de Beyketch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Alors dans le studio, avec Victoria, nous avons Pierre Demeuse, Dominique Vénère, Philippe Conrad et Jean-Claude Valla. Jean-Claude Valla et Pierre Demeuse pour parler du livre qui vient d'être écrit par Jean-Claude Vallat, qui a pour titre « Georges Valois, de l'anarcho-syndicalisme au fascisme », cahier libre d'histoire numéro 11. Nous donnerons l'adresse tout à l'heure des cahiers libres d'histoire et de la Librairie nationale où l'on peut se procurer cet ouvrage. Alors, Dominique Vénère, avant la coupure de 7h30, vous nous avez brossé un tableau tout à fait synthétique et tout à fait brillant de cette période formative et de ce contexte dans lequel Valois va se rapprocher des courants nationalistes et des courants contre-révolutionnaires. Alors ceci m'amène à la question qui est une question importante dans la période formative de Valois. À lire votre livre, l'on voit apparaître trois personnages qui sont véritablement dominants, déterminants. Alors ces trois personnages, c'est Georges Sorel, c'est Nietzsche et c'est Maurras. Peut-on distinguer la part de chacun dans la formation, dans l'héritage, dans la construction de Valois?
Oui, on peut tout à fait la distinguer. Bon, et ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que la part de Maurras me semble la plus importante, et de loin. Toutefois, Valois n'a rencontré Maurras qu'en 1906, par l'intermédiaire de Paul Bourget, car Valois avait à l'époque un manuscrit, c'était un manuscrit de L'Homme qui vient, il ne trouvait pas d'éditeur, et Paul Bourget lui a conseillé d'aller voir Maurras, qu'il ne connaissait pas, et à l'égard duquel il avait des préjugés, c'est-à-dire que Valois n'avait jamais lu la Revue d'Action française, et n'était pas monarchiste à cette époque, et donc avait beaucoup de préjugés défavorables. Et c'est Paul Bourget donc qui va l'introduire auprès de Maurras. Ils vont se voir en 1906 et grâce à Maurras, Valois pourra éditer son livre. Mais en réalité, Maurras arrive tard, je dirais, puisque Valois connaissait Georges Sorel depuis 1898. Il l'avait rencontré dans un petit journal anarchiste qui s'appelait L'Humanité Nouvelle, où il était secrétaire de rédaction, Valois. Et Sorel était venu remettre un texte qui s'appelait L'Avenir Socialiste des Syndicats, et qui a été publié donc en 1898 par cette revue anarchiste, cette feuille anarchiste, qui était dirigée par un Breton, Augustin Hamon. Et Sorel venait non seulement apporter son article, mais venait régulièrement et faisait déjà là ce qu'il a fait plus tard avec Peggy dans la boutique des cahiers, c'est-à-dire à parler. Et Valois, jeune homme à cette époque, Valois avait 19 ans, a écouté Sorel avec beaucoup d'intérêt, passionné, cet homme qui était très cultivé, qui n'était pas pédant, l'a beaucoup impressionné. Or, Sorel, à l'époque, était inconnu. Sorel avait 51 ans, à peu près, ou 52 ans, venait de quitter les Ponts et Chaussées, où il avait été ingénieur, avec la Légion d'honneur. Il n'était pas encore socialiste, ni le théoricien du syndicalisme révolutionnaire. Sorel avait même été, pendant sa jeunesse, à l'époque où il était étudiant aux Ponts et Chaussées, monarchiste légitimiste. Et simplement Sorel, du fait d'une maladie qu'il a cloué au lit dans une auberge à Lyon, a fait la connaissance d'une servante qu'il a beaucoup soignée,
et
qu'il l'a emmenée avec elle. Il ne l'a jamais épousée, mais c'est elle qui a joué un rôle considérable dans la prise de conscience par Sorel des problèmes du monde ouvrier. Et Sorel est devenu, avant d'être le théoricien du syndicalisme révolutionnaire qu'il sera, je dirais, vers 1908, lorsqu'il sort ses deux principaux livres, qui sont Les désillusions du progrès et ses réflexions sur la violence, Sorel est d'abord un marxiste. Ça devient un marxiste. Il est même probablement le seul marxiste français ayant lu Marx du début jusqu'à la fin, et ayant donc étudié Marx très sérieusement, et l'ayant remis en cause d'ailleurs, comme tous les révisionnistes, notamment allemands, c'est-à-dire estimant que l'analyse de Marx restait juste, mais qu'il fallait l'adapter à la réalité. Donc Sorel est un homme qui a suivi une évolution, pendant les années où Valois l'a connu. C'est-à-dire qu'entre entre 1898, date de la première rencontre entre Valois et Sorel, et les années 1910, Valois évolue du socialisme, enfin du syndicalisme ou de l'anarcho-syndicalisme vers le maurrasisme, et Sorel, lui, évolue d'une position, je dirais presque apolitique, d'intérêt pour le mouvement social, vers d'abord le marxisme, ensuite le syndicalisme d'action directe, et surtout, en 1908-1909, Sorel considère Charles Maurras comme l'un des personnages clés du paysage intellectuel français, comme on pourrait lire aujourd'hui, c'est-à-dire rend hommage à Maurras. Et Sorel est devenu, sous l'influence d'ailleurs non seulement de Maurras et de quelques autres, mais notamment de Maurras, est devenu un adversaire farouche de la démocratie, puisque Sorel va fonder un bimensuel qui s'appelle L'Indépendance, dans lequel vont collaborer Maurice Barrès, Gustave Le Bon, Vilfredo Pareto, et qui est une publication tout à fait originale, parce qu'elle est au carrefour de plusieurs influences. Mais elle n'est pas la seule d'ailleurs, puisque quelques années plus tôt, 2 ans avant, Émile Janvion, qui est un syndicaliste révolutionnaire, a créé une publication qui s'appelle Terre Libre, qui est la première organe syndicaliste révolutionnaire à se rallier très ouvertement au fait national, à critiquer ouvertement la franc-maçonnerie, ce qui était quand même pas très fréquent dans ces milieux-là, et là aussi à rendre hommage à Charles Maurras. Il y a vraiment là d'entre les... Alors il faut dire que Charles Maurras, à cette époque, il aura peut-être une évolution après, on en parlera, mais Maurras a privilégié jusqu'en 1914 la lutte contre la bourgeoisie, je dirais la contestation du monde bourgeois et des valeurs bourgeoises. Et Maurras va non seulement aller dans ce sens, mais va également attaquer violemment Clémenceau lors des fameux événements, des dramatiques événements de Draveil et de Villeneuve-Saint-Georges, lorsqu'il y aura des manifestations réprimées avec, je crois, 6 morts parmi les ouvriers. Maurras va accuser Clémenceau d'avoir organisé le carnage, et Maurras va se féliciter qu'un 1er janvier 1908, de voir que des militants de la CGT ont brûlé l'effigie de Marianne devant la Bourse du Travail, et Maurras dit c'est l'événement le plus important depuis le 14 juillet 1789.
Oui, c'est un aspect de Maurras qui est beaucoup trop oublié par une certaine école maurrassienne, j'allais dire coranique, qui ne voit d'un Maurras que le Maurras d'une certaine période après l'Union sacrée, voilà, etc. Alors le Maurras foisonnant, le Maurras créateur, le Maurras bouillonnant, c'est cette époque. L'Action française dynamique et conquérante, c'est cette époque.
Alors avant d'en dire l'Action française, parce qu'on va y venir, et c'est un sujet évidemment important, je voudrais dire un mot de Nietzsche, puisque vous m'aviez posé la question sur Nietzsche. Bon, Nietzsche, évidemment, est le seul des trois que Valois n'a pas connu, n'a pas rencontré, alors qu'il a bien connu les deux autres. Nietzsche a exercé sur lui une grande influence. Je dirais même que c'est probablement la première influence décisive sur Valois, parce que Nietzsche était un auteur apprécié des milieux anarcho-syndicalistes. Car le surhomme était quelque chose, c'était une notion qui intéressait beaucoup les syndicalistes d'action directe. Et Valois donc a lu Nietzsche sous cette influence-là. Et évidemment, il en a tiré un certain nombre de leçons. Et ce qui est très amusant, c'est que dans la préface ou l'avant-propos de son livre « L'homme qui vient », publié donc avec la bénédiction et l'aide de Maurras, il reconnaît sa dette à l'égard de Nietzsche, s'en excuse auprès de ses lecteurs.
Et auprès de Maurras.
Et oui, c'est une façon de s'excuser auprès de Maurras.
Parce que c'est un philosophe allemand.
Voilà, parce que c'est un philosophe allemand, et qu'il y a de bons auteurs français qui auraient pu, s'ils les avaient lus, le conduire dans la même direction. Et il cite 4 auteurs, il cite Bonald, De Maistre, Taine et Comte. Et il regrette que ce soit Nietzsche qui lui ait ouvert les yeux Mais ce qui est amusant, c'est que ce livre, oui, les auteurs sont, ses choix sont assez étonnants. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce livre, L'homme qui vient, est écrit à la manière d'Ainsi parler Zarathoustra. Alors de façon, j'ai bien la manière, hein, je ne dis pas qu'il a atteint la qualité littéraire de Nietzsche, mais c'est écrit, on sent que l'influence est là, et simplement, il s'en veut d'avoir été éveillé à sa nombre d'idées par Nietzsche, qui est un Allemand, et il fait le même reproche à Georges Sorel, car Sorel est un Français. Mais Sorel est trop prisonnier de la philosophie allemande.
Mais Nietzsche était un Allemand qui n'aimait pas les Allemands, oui, et qui appréciait les Français.
Voilà.
Et d'ailleurs,
il faut dire que la position de Maurras vis-à-vis de Nietzsche n'était pas une position d'horreur absolue. Maurras disait que Nietzsche était un sarmate ingénieux et inventif, et qu'il avait su déceler tous les maux dont souffrait notre société. Donc, n'oubliez pas également que dans la première Action française, vous avez un personnage qui s'appelle Lasserre, et qui a écrit le premier livre sur Nietzsche en France. C'est lui qui a été le premier à traduire Nietzsche. Donc, il y a quand même une symbiose. Nietzsche était allemand, certes, mais certains savaient passer devant cette tare congénitale.
En tout cas, ça gênait beaucoup Valois. Hein. C'est sûr que Valois, ça l'a beaucoup gêné. Il l'a dit, redit. Et Valois n'a cessé toute sa vie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'a cessé toute sa vie de détester l'Allemagne, viscéralement, de proférer d'ailleurs sur ce pays des bêtises épouvantables, imbéciles, vraiment. Et c'est une constante chez lui.
C'est sa seule fidélité.
Oui, c'est sa seule fidélité, avec aussi quand même chez lui, je dirais qu'il y a une autre constante chez Valois, c'est la volonté d'arriver à force à contraindre les producteurs, ouvriers et patrons à s'entendre. C'est un pré-technocrate. Je trouve qu'il y a chez Valois beaucoup d'idées qui seront reprises après par les planistes ou ceux qui vont évoluer vers la synarchie ou la technocratie. Et ça, c'est une constante chez lui.
Valois, à quel âge lorsqu'il se rapproche de Maurras ?
Valois est né en 1878, donc en 1906, lorsqu'il rencontre Maurras pour la première fois, il a 28 ans, si je sais bien compter.
Donc son passé anarcho-syndicaliste de jeunesse est oublié, là.
Oui, c'est-à-dire que Valois était anarcho-syndicaliste, disons, de 18 à 21 ans, à peu près.
Qu'a-t-il fait?
À 22 ans, il a fait son service militaire. Il n'est resté que 6 mois, car il a été réformé, parce qu'il était très fragile des poumons. Il a fait des exercices dans la forêt de Fontainebleau, qui l'amusait beaucoup, mais qui lui ont valu une réforme, ce qui l'a pas empêché d'être mobilisé en 14, de faire une belle guerre et de la finir avec les galons de sous-lieutenant. Mais toujours est-il qu'il a été réformé. Et il est parti après cela en Russie. Une expérience aussi intéressante, car il est parti comme précepteur dans une famille, dans la famille d'un gouverneur russe en Lituanie. C'était à l'époque donc une province de l'Empire russe. Et Valois arrive dans cette famille avec ses idées, encore ses a priori, ses anarchistes. Et il découvre là une famille de vieille aristocratie russe qui a plus d'ouverture d'esprit que les milieux anarchistes qu'il a côtoyés à Paris. Ce qui fait qu'il est séduit. Il est séduit, il a affaire à des gens qui sont passionnants, qui lui font découvrir ce qui peut être découvert de la Russie lorsqu'on y reste 18 mois, mais enfin c'est déjà pas mal. Valois également est en Lituanie, c'est-à-dire qu'il est dans la zone réservée aux juifs de l'Empire russe. Donc il a là, devant les yeux, des communautés juives très importantes, auquel il s'intéresse. Il va même donner des cours à quelques familles riches, enfin, qui vont lui permettre de gagner un petit peu d'argent. Et il va en fait, je pense, découvrir. Là, il découvre avec les juifs de Russie le nationalisme. Car il constate que que les Juifs de Russie ne soient pas du tout intégrés, ne soient pas du tout comme les Juifs de France qui ont une volonté de se sentir français, mais qu'il y a là un nationalisme juif, d'ailleurs qu'il a pensé que le sionisme est en grande partie originaire des communautés juives de Russie, et je pense que c'est quelque chose qui l'a influencé dans sa prise de conscience nationaliste, l'armée l'ayant déjà donc pendant 6 mois un peu titillé parce que finalement il avait découvert les vertus de l'ordre. Et je crois que Valois, tout anarchiste qu'il a été, était un homme d'ordre. C'est-à-dire que Valois n'aimait pas l'anarchie, estimait que l'anarchie pouvait être nécessaire comme révolte, quand on est jeune ou quand on est adolescent, pour s'affirmer. Mais en fait, Valois est profondément un homme d'ordre, et c'est, je crois, pour ça qu'il s'est quand même bien entendu avec Maurras pendant 20 ans.
Alors justement, revenons à Valois et à Maurras. La rencontre se fait comment ?
Elle se fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Paul Bourget qui introduit Valois auprès de Maurras.
Maurras fait la préface.
Non, il ne fait pas la préface, mais il le fait éditer. C'est-à-dire qu'en fait, il le fait éditer à la Nouvelle Librairie Nationale, qui est une maison d'édition qui est dans l'orbite de l'Action française. Donc le livre est édité là.
On parle énormément du livre dans la presse de l'Action française.
Oui, on en parle, mais le livre a dû faire problème parce que cette préface est très alambiquée. Alors non seulement il s'excuse d'avoir subi l'influence de Nietzsche, mais également il explique que lorsqu'il a commencé la rédaction de son livre, L'homme qui vient, il n'était pas monarchiste et que en le finissant, il est monarchiste. Alors, je suis pas sûr que ce soit vrai. Je pense que il était peut-être déjà simplement, sûrement intéressé par la monarchie avant. Est-ce que Maurras, lors de l'entretien, a exercé une influence déterminante ? Je pense que oui. Je pense que c'est Maurras qui l'a convaincu des bienfaits de la monarchie. Il ne faut pas oublier que l'Action française, lorsqu'elle a été créée, était un mouvement républicain, avant l'arrivée de Maurras, et que c'est Maurras qui a convaincu les premiers dirigeants de l'Action française de se rallier à la monarchie. Maurras avait, je pense, une force de conviction très grande, et je ne crois pas que Valois aurait pu devenir monarchiste sans l'influence de Maurras, puisqu'on sait qu'ils se sont rencontrés.
Mais Valois devient-il vraiment monarchiste ?
Oui, Valois devient vraiment monarchiste. Il va même écrire un livre qui s'appelle « La monarchie et la classe ouvrière », qui est une enquête réalisée auprès de 20 ou 30, je ne sais plus, syndicalistes, pas forcément anarcho-syndicalistes, syndicalistes et de publicistes anarchistes, pour leur demander ce qu'ils pensent de la monarchie. Alors ce livre est d'ailleurs assez intéressant. Il y a beaucoup de commentaires de Valois plus que de déclarations désintéressées, mais il y en a un seul qui est pour la monarchie. Tous les autres sont contre. Certains sont pour la dictature, mais pas pour la monarchie. Tous sont quasiment violemment antidémocrates, ce qui est une constante dans ces milieux-là, parce que la démocratie, c'est la démocratie bourgeoise. C'est donc quelque chose d'odieux à leurs yeux. Et donc ce livre, en tout cas, montre que Valois a tenté de convaincre ces milieux-là de l'utilité ou des bienfaits de la monarchie. Il n'y parvient pas, mais Valois est effectivement tout à fait monarchiste. Et il cessera de l'être, en fait, après la Grande Guerre. Et ce sera, je crois, une des raisons de sa brouille avec Maurras. Une des raisons, il y a beaucoup d'autres. C'est-à-dire que Valois était partisan, tout en étant encore membre des comités directeurs de l'Action française, était partisan de mener des actions avec des non-monarchistes. C'est-à-dire essayer de rassembler très large.
Mais Maurras aussi, quel compromis nationaliste.
Oui, mais là, c'était dans un moment où Maurras ne souhaitait pas aller aussi large. Il y a une discussion, une brouille qui est intervenue à ce moment-là, mais peut-être que Pierre de Meuse en sait plus que moi sur cet aspect-là.
Pas sur l'aspect en particulier de la brouille avec Valois, parce que vous savez, à l'Action française, il y avait une coutume regrettable, qui consistait à toujours donner aux querelles et aux scissions des raisons prosaïques d'ordre d'intérêt ou de flicage. Donc nous n'avions pas de connaissance interne de l'opposition qui avait pu exister entre Maurras et Valois à cette époque. En revanche, ce qu'on a pu reconstituer et à quoi vous faites allusion de manière très intéressante dans votre livre, c'est ce débat d'idées qui existait à l'intérieur de l'Action française, et d'ailleurs entre l'Action française et les autres forces politiques, sur le rôle que devait avoir la conciliation sociale et la guerre sociale. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça nous met dans un paysage politique qui a vraiment disparu. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler à la radio. Je doute fort qu'il y ait beaucoup de gens de gauche qui nous écoutent et qui disent, tiens, voilà, il soulève un point intéressant, on va en discuter. Bon, l'univers politique est glacé. À l'époque, quand quelqu'un prenait une chaise, se mettait dans la rue et commençait à parler, il faisait une manifestation, il y avait des gens qui se mettaient auprès de lui, et il suscitait immédiatement de l'intérêt. Eh bien, il y avait un débat, il y avait une ouverture. Violente, certes, les journalistes se battaient en duel.
Époque bénie.
Voilà, mais cela dit, on parlait. Et dans l'Action française, c'était la même chose. Il y avait un débat, il y avait des tendances qui étaient quelque peu opposées. D'ailleurs, vous citez vous-même un certain Édouard Berthe, oui. Qui dans un livre, dans une revue, la revue critique des faits et des idées, c'est comme ça que ça s'appelait, annonçait que le nationalisme intégral ne s'accommodait pas forcément de la paix sociale. Hein? Parce qu'il y avait deux tendances en fin de compte. Il y avait d'un côté ceux qui, autour des disciples de la Tour du Pin, comme Firmin Mâconnier, que nous avons bien connus. C'est extraordinaire, vous disiez, on est encore très jeunes, mais vous voyez, on a connu Firmin Mâconnier.
Qui avait collaboré à l'Aspect de la France.
Qui avait collaboré à l'Aspect de la France, qui faisait tous les ans des conférences sur le corporatisme. Donc, les disciples de la Tour du Pin, qui étaient partisans d'une conciliation entre patrons et ouvriers, dans une corporation dont on ne voyait pas très bien comment elle pouvait correspondre à la dimension de l'entreprise moderne. Hein? Et puis, de l'autre côté, vous aviez des gens qui, autour des partisans de Sorel, de cet Édouard Berthe et d'une certaine façon de Georges Valois, estimaient qu'au contraire, il y avait une classe révolutionnaire, il fallait faire la révolution, et pour faire la révolution, pour renverser la bourgeoisie, eh bien, il fallait soulever la classe ouvrière contre la République, la démocratie, la bourgeoisie, qui était un petit peu la même chose, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, l'attitude de Maurras, évidemment, était partagée sur ce point. Parce que Maurras n'aimait pas qu'on appelle la mort des bourgeois. Et pour cause, il était lui-même issu d'une vieille famille de petite bourgeoisie d'Ancien Régime, fier de ses traditions. Il n'aimait pas ça. Mais de notre côté, il était tout à fait conscient que les valeurs bourgeoises ayant envahi toute la société au détriment de toutes les autres valeurs, eh bien, il fallait la remettre à sa place. Et il disait la bourgeoisie ne doit pas incarner, ne doit pas représenter le tout de l'être social. Donc, il voulait remettre la bourgeoisie à sa place. Mais il ne voulait pas forcément non plus qu'on anéantisse toute la classe bourgeoise dans son entier. Et il voulait conserver les valeurs de
Sorel non plus.
Sorel non plus. Sorel non plus, sans doute. Voilà. Et alors, donc, ces débats avaient lieu au sein de l'Action française et de façon assez ouverte, Maurras arbitrant.
L'article, d'ailleurs, d'Edouard Berthe, que vous avez évoqué, est en fait un article paru dans les cahiers du Cercle Proudhon.
Dans les cahiers du Cercle Proudhon, vous avez raison.
Tu pourras peut-être dire un mot tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Dominique Venaire, vous voulez intervenir.
Oui, rapidement, pour attirer l'attention sur cette petite chose importante. Il y a une différence majeure entre le mythe de la bourgeoisie et la réalité sociale multiple de la bourgeoisie, grande, petite, moyenne, etc. Il y a un mythe de la bourgeoisie qui est celui de certaines valeurs qui parviennent au pouvoir par l'intermédiaire de la démocratie. Ça forme un ensemble. Comme tous les mythes, évidemment, il est très trompeur, à la fois très trompeur et très révélateur. très trompeur parce qu'il est loin de la réalité complexe, réalité sociale, politique, etc. Mais cette, il a le mythe, et celui-là, entre autres, a une valeur mobilisatrice qui est très grande. Voilà. Je voulais attirer l'attention sur cette distinction.
Moi, je voudrais revenir sur ce que disait Pierre de Meuse à propos de la période du foisonnement intellectuel de l'Action française avant 14. Vous avez bien montré comment Maurras, en fait, arbitrait entre, donnant tout de même des grandes lignes de conduite, arbitrait. Ce fut la période excessivement productrice de l'Action française, qui a été ensuite cassée par deux événements. L'Union sacrée, qui a fait que l'Union s'est faite contre l'Allemagne, mais en abandonnant un certain nombre de principes révolutionnaires. Et ensuite, on voit à partir du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et encore plus à partir de 1926, l'on voit la pensée maurrassienne qui ne va plus se renouveler, qui va quasiment se fossiliser, ce serait un terme péjoratif, qui va se figer dans une certaine mesure, et qui ne va plus être inventive. Et d'ailleurs, Sorel est parti, Sorel part. L'Action française cesse de produire des débats pour continuer à développer des idées qui vont être mises en place une fois pour toutes. On ne va plus rediscuter ces idées. Et que se passe-t-il ? Alors, la guerre de 14 ou y a-t-il d'autres raisons ?
Vous avez parfaitement raison de dire que l'Union sacrée a été le point de départ d'une stérilisation de la pensée d'Action française. Je pense que c'est indispensable. Ensuite, il y a eu deux événements importants.
Justement, elle était aussi le point de départ de la stérilisation ou d'une stérilisation de la gauche ou d'une partie de la gauche.
Tout à fait.
Car cette guerre de 14-18 a bloqué beaucoup d'évolutions dans toutes les familles politiques.
Tout à fait. Alors ensuite, il y a eu la condamnation de l'Action française, qui a eu un effet extrêmement stérilisateur dans la mesure où l'Action française n'osait plus toucher à certains sujets.
Au lieu de libérer l'Action française, elle l'a auto-censurée.
Voilà, tout à fait.
Alors que l'Action française aurait dû être libérée par cette condamnation.
Et puis il y a eu un congrès également au cours duquel se sont opposées deux thèses opposées, Robert de Boisfleury et le colonel de Vezin, qui se sont opposés, Boisfleury disant il faut, nous ne pouvons pas gagner sans la bourgeoisie, et Robert de Vezin disant au contraire il faut tenter le coup du tout pour le tout et essayer de renverser la République en s'appuyant éventuellement sur les partis les plus mobilisables.
Nous sommes dans quelle année ? Congrès de
22-23.
Oui, au moment où tout bouge en Europe.
Hein. Oui. Alors, avant 14-18, dans les années qui précèdent 14-18, il y a déjà ce débat, déjà ce problème. C'est-à-dire qu'en fait, Maurras serait très tenté de jouer la carte anarcho-syndicaliste, d'autant plus qu'il y a quand même un peu de répondants de l'autre côté. Pas beaucoup, mais un peu. Sauf que chaque fois que l'Action française abonde dans ce sens-là et fait des articles favorables aux anarcho-syndicalistes, les financiers ou les mécènes de l'Action française, évidemment, ruent dans les brancards. Ce qui fait que Maurras ne peut pas, même s'il en a envie, aller trop loin, sous peine de se priver de moyens financiers. Et ça va jouer un rôle relativement important, et ça va beaucoup agacer Valois, qui, lui, n'a aucune notion de l'argent, et qui, en fait, a envie de, simplement, de poursuivre son rêve. Parce que Valois, je pense, poursuit un rêve, à cette époque-là, comme il en poursuivra d'autres après. Ce sont des sincérités successives, mais, je trouve Valois totalement désintéressé. Maurras l'était aussi, mais Maurras avait une entreprise à faire vivre. Un journal à faire vivre, un quotidien à faire vivre.
Et c'était difficile. La situation économique de l'Action française était toujours au bord du gouffre, au bord du précipice.
Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, qui a joué un rôle très important dans l'évolution des mentalités, dans les évolutions idéologiques de cette époque, c'est l'affaire Dreyfus.
Très important. Vous pouvez en parler de façon... Vous m'avez éclairé sur ce sujet de manière...
Parce que, alors, Valois le raconte très bien. C'est-à-dire, Valois explique que finalement, les anarcho-syndicalistes étaient au départ pas du tout favorables à la cause dreyfusienne. Pourquoi ? Parce que c'était une affaire interne à l'armée, interne à la bourgeoisie, Il y a même d'ailleurs certains textes anarcho-syndicaliste qui tomberaient aujourd'hui sous le coup de la loi à propos de ce pauvre capitaine. Et donc ils étaient absolument pas du tout intéressés, pas concernés. Et puis Valois raconte qu'un certain nombre d'entremetteurs sont arrivés, certains parlant à peine le français, dit-il, et qui sont venus expliquer aux anarcho-syndicalistes que finalement ils avaient tort parce que c'est une affaire qui allait, qui pouvait affaiblir l'armée. Donc comme ils étaient antimilitaristes, ils avaient tout intérêt à jouer ce jeu-là, même s'ils n'aimaient pas Dreyfus, il fallait le défendre pour saper l'armée, et puis en même temps on sapait toutes les institutions de la République bourgeoise, et que c'était donc tout bénéfice, et qu'en échange, bien entendu, de leur appui, on leur accorderait un certain nombre de satisfactions.
Lesquelles ?
Sur le plan social.
Sur le plan social.
Sur le plan social. Or, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un ralliement quasiment collectif. Sorel s'est rallié aussi à la cause dreyfusarde. Il s'en est expliqué après coup, d'ailleurs. Mais Valois aussi. Et ils ont se rendu compte que qu'ils avaient été floués. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été les premiers sur la barricade ou dans les combats pour Dreyfus, et jamais les promesses ont été tenues. Et donc, ça les a fortement remontés contre les socialistes, parce que c'est essentiellement les socialistes bourgeois qui étaient en cause, qui avaient voulu essayer de les attirer. Et en fait, ça a beaucoup nuit à ces mouvements, car pour les calmer, on les a nommés à des postes officiels, c'est-à-dire qu'on les a fait rentrer dans les ministères, et c'est ce que Valois appelle les anarchistes de gouvernement, c'est-à-dire en fait des gens qui avaient besoin d'être calmés, donc on a casé.
Pierre de Meuse.
Oui, alors justement, et Valois a écrit un article très intéressant, ou un passage d'un livre que vous citez, et dans lequel, avec beaucoup de rigueur, il explique que ne pouvant malgré tout se trahir tout à fait, ces ministres d'origine anarchiste, qui profitaient à fond des prébendes qui leur étaient données par le système, se permettaient tout de même, afin de satisfaire ce qui leur restait d'idées, de détruire tout ce qui restait de tradition, d'ordre et d'autorité dans le pays. Et ça, c'est extrêmement bien vu.
Oui, et en plus, dans la description qu'il fait de ce phénomène, et comment l'État s'est mis à enseigner les idées anarchistes, parce qu'il appelle les idées anarchistes, on pense à mai 68. C'est-à-dire qu'il fait une analyse, on se dit, mais c'est ce qui s'est passé en mai 68 et après mai 68. C'est-à-dire, en fait, comment les idées subversives anti-étatiques sont finalement reprises par l'État ou par les institutions de l'État et enseignées. Et il dit même, le miracle, c'est qu'il y ait eu aussi peu d'anarchistes en France.
Sur ces fortes paroles, je propose aux auditeurs une petite pause musicale.
Thank you.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Becquetch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Nous sommes avec Jean-Claude Vallat qui nous présente son livre « Georges Valois de l'anarcho-syndicalisme au fascisme » publié par les Cahiers Libres d'Histoire. Victoria, question d'auditeur ?
Oui, un auditeur évoque les syndicats jaunes. Il y a eu une forte influence de ces syndicats à l'époque de Valois, avant la guerre de 14, dit-il. Je possède un livre d'un siècle à l'autre, illustré par Jean Feldel. Qu'en pensez-vous ?
Alors, les jaunes, ce qu'on appelait les jaunes, c'est aujourd'hui devenu un terme très péjoratif pour désigner les syndicats qui collaborent avec le patronat, mais à l'époque c'était pas vraiment le cas. C'est-à-dire, ce sont des syndicats qui se sont créés et qui étaient des syndicats non marxistes ou anti-marxistes et qui ne voulaient pas admettre la lutte des classes et qui étaient hostiles au principe de la grève générale qui était le mythe de la classe ouvrière, en tout cas de certains dans la classe ouvrière. Et ces syndicats se sont unifié à un moment, il y a eu plusieurs étapes, mais je passe sur les détails, et le principal unificateur et le principal chef des jaunes a été Paul Biétry. Paul Biétry, qui est un personnage qui venait, qui était un ouvrier au départ, qui venait du syndicalisme classique, enfin, du syndicalisme marxiste ou révolutionnaire, et qui a été donc le chef du mouvement jaune. Alors il faut savoir que le chef, enfin que Biétry, était un homme. Zev Sternel le compare à Doriot, en disant qu'il a la même personnalité, le même tempérament. Bon, et je crois que c'est assez juste. Ce qui est sûr, c'est que Biétry a donné au mouvement jaune une orientation politique très nationaliste. Biétry et les jaunes étaient soutenus par la France, par Drummond, et le mouvement jaune a adhéré au mouvement anti-juif de Drummond, c'est-à-dire qu'il y a eu là vraiment une association très étroite, et ce mouvement jaune a périclité, et Biétry est parti à l'étranger, on ne sait jamais ce qu'il est devenu. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'il est mort. Et ce qui est intéressant, c'est que au départ, les jaunes ont collaboré avec l'Action française, c'est-à-dire qu'il y a eu une entente tout à fait cordiale, etc. Mais ça n'a pas duré, et il y a eu rupture. Et
sur quel point il y a eu rupture ?
Alors, il y a eu rupture essentiellement pour des questions, je crois, de rivalité. C'est-à-dire que Biétry n'a pas apprécié que l'accord social de Firmin Baconnier, qui était d'abord une publication, mais qui avait créé les groupes de l'accord social, se crée parce qu'ils ont considéré que l'Action française leur faisait un coup par derrière, essayait en fait de leur faire concurrence ou
marginaliser.
Oui ou non, ou de leur prendre.
C'était
une querelle de boutique. En plus, je pense que Biétry était un personnage, bon, sûrement pas facile, qui a accumulé beaucoup d'erreurs dans sa brève carrière de chef syndicaliste. Le mouvement est intéressant et...
D'où venait ce nom de jaune ?
Oh, c'est parce que les vitres du local où ils se réunissaient avaient été cassées, et donc ils avaient mis du papier qui était jaune à la place des vitres, et on les appelait les jaunes. Voilà.
Alors, en 1911, Valois va créer le cercle Proudhon. Et ce qui est intéressant de voir, lors de la création de ce cercle, la première réunion publique de ce cercle Proudhon est présidée par Charles Maurras. Alors, on revient à Maurras, mais arrive Proudhon.
Oui.
Ce cercle Proudhon, pouvez-vous nous en parler?
Oui, ce cercle Proudhon, effectivement, est créé en 1911, en décembre 1911. Bon, il est un peu en gestation avant, mais enfin, il voit le jour officiellement en décembre 1911. Il y a 8 fondateurs officiels, statutaires, je dirais. 2 syndicalistes révolutionnaires, l'un étant Édouard Berthe, disciple de Sorel, j'y reviendrai tout à l'heure, et Riquier, qui est donc encore un syndicaliste révolutionnaire, et 6 monarchistes dits sociaux, donc qui sont des gens de l'Action française. Il fait que déjà l'équilibre n'est pas, il n'y a pas parité, puisqu'il y a 2 syndicalistes révolutionnaires pour 6 monarchistes.
Et Baconnier faisait partie du nombre ?
Non. Baconnier ne faisait pas partie du nombre. La référence à Proudhon, bon, est assez évidente, parce que finalement c'est le seul théoricien socialiste français, le seul vrai théoricien socialiste français reconnu par les gens qui constituent le cercle. En plus, il a Proudhon est un personnage ambigu dans lequel on peut trouver beaucoup de choses, mais son apologie, l'apologie de la guerre faite par Proudhon leur plaît beaucoup. Pas oublier que Berthe, le syndicaliste révolutionnaire cofondateur du cercle Proudhon, parce qu'il a été avec Valois l'un des 2 vrais fondateurs du cercle Proudhon, Berthe a écrit un livre dans lequel il développe en quoi les vertus guerrières sont nécessaires. Il les compare, il compare en fait la guerre au syndicalisme d'action directe. C'est-à-dire qu'en fait c'est la même chose, c'est-à-dire que les travailleurs vont se régénérer comme une nation peut se régénérer par la guerre.
Encore Mussolini, les discours.
Oui, bien sûr. Et c'est Berthe qui est le plus engagé dans cela. Et je cite longuement un de ses articles dans les cahiers du cercle Proudhon, qui, je crois, est assez révélateur de la façon de penser de ces gens-là, parce qu'il n'est pas le seul. Il est en pointe, mais il n'est pas seul. C'est le principal disciple de Sorel, disciple et ami. Il s'est engagé dans le cercle Proudhon. Malgré les réserves de Sorel, Sorel lui a déconseillé. Car Sorel, tout en admirant Maurras, pense que cette association, c'est un mélange qui ne sera pas productif, et donc pense que le cercle Proudhon est voué à l'échec. Mais Berthe va être un des piliers du cercle Proudhon jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, le cercle Proudhon, ça dure un an. Une bonne année. Première réunion, effectivement, présidée par Charles Maurras. 4 numéros des cahiers du cercle Proudhon, parce qu'il y a eu des numéros doubles, donc 4 livraisons, dont 2 numérotés doubles, avec des articles essentiellement de Valois et de Berthe, Berthe signant sous pseudonyme, car Berthe n'apparaît pas sous son vrai nom, ce qui est d'ailleurs tout à fait révélateur. Et ils vont consacrer dans le numéro 4, numéro 4, mais qui est en fait la troisième livraison, un hommage à Sorel. Sorel va être invité au banquet, ne va pas venir, parce qu'il estime qu'il ne veut pas se laisser piéger. Et je cite un bref passage du discours de quelqu'un que vous connaissez, parce que c'est une figure de l'Action française, qui est Delagrange, c'est ça ?
Oui. Le chanoine ?
Non, le jeune...
Ah oui, Léo Lagrange.
Je vais tout de suite corriger cette hésitation.
Alors donc, c'est ces citations, et que dit-il
Il explique en fait qu'ils ont pris le nom de Proudhon pour le cercle, parce qu'ils ne pouvaient pas choisir celui de Sorel, parce que Sorel était encore vivant, mais qu'ils avaient pu en fait choisir Sorel, ils auraient pris Sorel, car c'est évidemment reconnaître à Sorel toute l'importance qu'il avait. Mais Sorel a boudé. Alors ce qui est intéressant, pour en finir avec le cercle Proudhon, ce qui est intéressant quand même de savoir, c'est que Sorel et Berthe, donc Berthe impliquée dans le cercle Proudhon, Sorel pas impliquée dans le cercle Proudhon, mais tous les deux amis, vont se rallier, vont apporter leur soutien à la révolution bolchevique, plus à Lénine d'ailleurs qu'au bolchevisme lui-même. Sorel sera revendiqué tout à la fois par Lénine et par Mussolini. Et Berthe va collaborer à la revue communiste ou crypto-communiste Clarté, sans être dupe du système soviétique d'ailleurs. Et lorsque Valois va, après la dislocation du faisceau, donc du parti fasciste, Valois va créer en 1928 le Parti républicain syndicaliste avec un organe qui était les Cahiers bleus, eh bien on voit réapparaître la signature de Berthe, qui a donc fait un petit crochet par le léninisme plus que par le communisme, et qui revient aux côtés de Sorel, mais d'un Sorel qui est en train d'évoluer vers la gauche après le fascisme. Donc on retrouve ces personnages.
Oui, Dominique Zener.
Oui, petite incidente concernant ce ralliement de certains à Lénine ou léninisme. Ces gens-là, évidemment, ne comprennent rien du tout.
Bien sûr.
Ils ne savent pas du tout ce qu'est le bolchevisme. D'ailleurs, personne ne le sait. ils voient simplement un mouvement dynamique de renversement apparemment peut-être de la bourgeoisie, peut-être de la démocratie, etc. Et dans cette ambiance de bouleversement de l'époque, beaucoup regardent Lénine avec un œil sympathique. C'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne. En Allemagne, au sein de ce qu'on appellera la révolution conservatrice dans la même époque, il y a tout un courant de gens qui s'abusent d'ailleurs complètement, qui eux non plus ne comprennent rien à ce qu'est le bolchevisme, qui voient un phénomène d'énergie et de dynamisme, et qui pour cette raison l'approuvent, pensent qu'il est possible de trouver des convergences.
D'ailleurs,
oui, je crois que
pas tous en même temps.
Ces certitudes vont durer au moins en France jusqu'en 1924, qui voit la mainmise de Thorez sur le parti. Alors là, les choses apparaissent plus clairement, mais les premières années, il y a une grande confusion.
Oui, mais quand même, en France, et ça nous ramène à Valois, des gens qui ont appartenu au faisceau, je pense notamment à Philippe Lamour, donc qu'on a connu après pour avoir été un responsable de l'aménagement du territoire. Bon, Philippe Lamour a été membre du faisceau, a quitté le faisceau, a créé très rapidement un parti fasciste révolutionnaire qui est tombé très vite en quenouille. Et dans un livre que Philippe Lamour a publié, qui s'appelle, je crois, Entretien sous la Tour Eiffel, Lamour explique que finalement les expériences fascistes italiennes et l'expérience bolchevique russe ont en commun un point très positif qui est en fait le remplacement des vieilles élites par la jeunesse. Alors c'est une croyance qui persiste là, puisque nous sommes quand même, quand ce livre est publié, nous sommes déjà quand même en 1929. Quand les entretiens sur le Tour Eiffel sont publiés, c'est des idées qui persistent et qu'on va retrouver effectivement, comme disait Dominique, dans différents pays, notamment en Espagne, chez notamment Ramiro Ledesma Ramos, qui va reprendre la même idée, et on verra dans le journal de Ledesma, qui s'appelle La Conquista del Estado, on verra des titres d'articles, vive la Russie bolchevique, vive l'Italie fasciste, et vive l'Allemagne nationale socialiste. C'est-à-dire que les trois étant mis dans le même sac.
C'est ça.
Alors, ça fait partie, effectivement, d'une réaction contre la bourgeoisie, contre les vieilles structures, bon, le rêve d'une jeunesse au pouvoir.
Philippe Conrad. Oui,
je crois qu'on ne comprend pas grand-chose à cette époque-là si on ne la met pas dans cette perspective générationnelle. Cette idée de la jeunesse est effectivement un dénominateur commun pour des tas de gens qui vont avoir des itinéraires différents, mais ça correspond tout à fait à cette période-là. Donc, c'est quelque chose qu'on a complètement aboli maintenant dans la vision qu'on en a. On pêche par l'anachronisme là.
Pierre de Meuse.
Oui, je voulais dire que même à l'action française, lorsque le bolchevisme a pris le pouvoir en Russie, il y a eu un article de Maras qui s'appelait « Lettre aux républicains de Russie » et dans lequel l'action française montrait qu'elle ne désapprouvait pas automatiquement la révolution bolchevique, même dans l'action française.
Donc c'était Mais Pierre, je ferai une petite restriction dans le sens suivant. désapprouvait pas la révolution dans la mesure où la Russie continuait la guerre.
Bien sûr.
Contre l'Allemagne.
Mais quand même.
Avait toujours cet arrière-plan d'Allemagne. Certes, le système tsariste est aboli, ce n'est pas sympathique, mais si la Russie bolchevique continue la guerre contre l'Allemagne, ça reste un allié, c'est pas le pire.
C'était
peut-être avant la révolution, c'était peut-être avant la prise du pouvoir par les bolcheviques, parce que immédiatement, dès octobre-novembre, suivant le calendrier, prise du pouvoir par les bolcheviques, ceux-ci mettent en application leur politique, la paix immédiate.
Oui, certainement, c'était à l'époque l'interrègne de Kerensky.
C'est après février-mars, le renversement, en effet, du tsarisme, et dans cette période de ce qu'on appelle la première révolution.
Alors, qu'est-ce pour revenir à Proudhon et au Serge Proudhon et à Maurras, j'aimerais vous poser une question à vous, Vala et à De Meuse. Quelles sont les intentions de Maurras dans la création du cercle Proudhon?
Les intentions de Maurras dans le... D'abord, je crois que Maurras n'a pas créé le cercle Proudhon. Je crois que Maurras a laissé faire. Il a laissé faire Valois et d'autres. Parce que Valois n'était pas le seul. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait parmi les membres, les fondateurs statutaires du cercle Valois, il y avait 6 monarchistes. J'ai plus les noms en tête, je les cite dans mon livre. Et ces gens avaient été très actifs au sein de l'Action française. Lorsqu'ils ont voulu créer ce cercle avec les deux syndicalistes révolutionnaires que j'indiquais tout à l'heure, dont Berthe, Maurras a approuvé, Maurras a couvert en président la réunion de fondation, et Maurras, je pense, voulait espérer que de ce cercle, eh bien, il sortirait, qu'il ressortirait un ralliement renforcé des syndicalistes révolutionnaires à l'idée monarchique.
Le but du cercle Proudhon était-il d'être le noyau d'un nouveau syndicat nationaliste ou
c'est un cercle d'études.
C'est un cercle d'études.
Bien, j'aimerais que nous en terminions maintenant avec une dernière question. Voilà, une dernière question qui va tourner autour des rapports entre Valois et Mussolini.
Oui. Alors, Valois, évidemment, a rencontré Mussolini plusieurs fois, notamment à l'époque où il a créé le faisceau, dont le nom, évidemment, était une référence explicite au fascisme italien. Il l'a rencontré à plusieurs reprises, a été subjugué par le personnage. Subjugué. Et Valois va tout d'un coup...
Personnage qui parlait très bien français.
Oui, qui parlait très bien le français, c'est effectivement important à souligner. Et quand, en fait, Valois va se détacher du fascisme, tout en étant encore au faisceau, c'est-à-dire qu'il va prendre peu à peu ses distances, en faisant des procès, d'ailleurs, au fascisme italien, qui sont pas forcément très justifiés, c'est-à-dire qu'il accuse le régime fasciste italien d'être finalement à la solde du patronat, ou si on veut schématiser, c'est un peu ça. Ce qui est quand même pas aussi simple dans la réalité. La rupture intellectuelle de Valois avec le fascisme italien est assez inexplicable. À cette époque-là, en tout cas, elle aurait pu l'être après, explicable. Mais à cette époque-là, elle l'est pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que même après sa rupture, même après la fin du faisceau, même après sa rupture avec ses liens avec Mussolini et l'Italie fasciste, Valois va continuer à manifester une fascination, je crois que c'est le mot qui convient, pour Mussolini. Et il va encore, dans les années 30, au moment où finalement on ne sait pas trop ce que va faire Mussolini dans ses rapports avec Hitler, il va défendre l'idée que on aurait pu éviter à Mussolini de basculer du côté d'Hitler. Et il a quelques paroles assez élogieuses sur Mussolini, que je cite dans mon avant-propos, et qui montrent que même longtemps après la fin du faisceau, Valois avait encore une certaine fascination pour Mussolini.
Jean-Claude Vallat, merci infiniment. Votre livre, ça... Oui, pardon, Oui, Victoria. Oui.
Un auditeur nous demande si vous pouvez donner la date du décès de Valois et si son corps a été rapatrié en France et où.
Alors, je ne sais pas si son corps a été rapatrié. Il est mort le 18 février 1945 à Bergen-Belsen.
Bien, Jean-Claude Vallat, merci. Votre livre se termine avant la grande séparation avec Maurras, avant la grande crise avec l'élection française. Crise désagréable parce que les insultes ont volé bas. Laissons ça de côté, n'en parlons pas. Donc, livre tout à fait passionnant. Et pour vous procurer ce livre, chers auditeurs, qui est un livre tout à fait important, je rappelle, de Jean-Claude Vallat, Georges Valois, de l'anarcho-syndicalisme au fascisme, publié au cahier libre d'histoire numéro 11. Alors pour vous procurer ce livre, vous pouvez vous adresser à la Librairie Nationale, 12 rue de la Sourdière, 12 rue de la Sourdière, 75001 Paris, 12 rue de la Sourdière, 75001 Paris, donc Librairie Nationale, et vous pouvez toujours téléphoner à la Librairie Nationale 01 42 86 06 92 01 42 86 06 92.
Et quel en est le prix, s'il vous plaît?
Le prix, 17 euros. Nous allons une dernière petite pause musicale avant d'aborder le dernier point de notre émission. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le livre journal de Serge de Becquetch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Alors, chers auditeurs, je m'étais un peu avancé en début d'émission en vous disant que nous allions parler de la Nouvelle Revue d'Histoire et de l'Algérie avec Dominique Vénère. En fait, Dominique Vénère est arrivé en retard. Est-elle le Père Noël ou les Rois Mages? Il arrive avec porteur d'un magnifique ouvrage. Un magnifique ouvrage qui a pour titre, je lis, Agenda Venise 2004, avec une préface de Michel Mort. C'est absolument superbe. Dominique Vénère, parlez-nous de cet ouvrage superbe qui attire l'œil.
Oui, alors c'est en réalité beaucoup plus qu'un agenda. C'est le titre, Agenda Venise 2004, mais... Comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater, c'est un véritable livre ou un album avec une part de texte qui est important. Alors, cet agenda est publié par la société éditrice de la Nouvelle Revue d'Histoire, c'est-à-dire la société Histoire et Mémoire. Ce n'est pas la Nouvelle Revue d'Histoire qui le fait, mais c'est la même société éditrice. Alors, les initiateurs de ce splendide agenda sont à la fois François de Crécy et Benoît Mancheron. Benoît Mancheron qui est un ami et qui joue un rôle important à la Nouvelle Revue d'Histoire et également dans la société des éditions Histoire et Mémoire. François de Crécy a publié un ouvrage sur Venise. C'est un grand spécialiste de Venise. Il participe à des émissions radiophoniques. Il est quelque peu expert en ce sujet, et avec Benoît Mancheron, il a conçu l'idée d'un agenda dans lequel des aspects très différents de l'univers fascinant de Venise seraient exprimés à la fois par des textes et par l'image. Alors, quand on feuillete cet agenda, on découvre en effet que, en dehors du texte de présentation, il y a une préface de Michel Mort, chaque mois est précédé par un texte substantiel, écrit par, à chaque fois, par des auteurs différents, et qui évoque tel ou tel aspect du monde séduisant et foisonnant de Venise. Par exemple, dans le texte qui précède le mois de janvier, qui est aussi un texte d'introduction dans une certaine mesure, il y a une évocation écrite par François de Crécy lui-même sur l'histoire de Venise. Ensuite, pour le mois de février, un très joli texte qui s'intitule « Masque et Bergamasque », qui est consacré au carnaval de Venise, fait très important, qui est rédigé par Anne Brassier. Au mois de mars, c'est un texte sur les écrivains et Venise, qui est écrit par Jean-Marc Varro, membre de l'Institut, qui évoque la présence de Venise dans les lettres et dans la littérature, de Barès à Thomas Mann, par exemple. Au mois d'avril, c'est l'art de vivre à Venise. Alors là, c'est un texte qui est ancien et qui est très intéressant, texte de Théophile Gautier. Très intéressant parce qu'évidemment, c'est une évocation d'un autre Venise, celui du siècle dernier, et par quelqu'un qui était à la fois grand observateur, esprit multiple et très belle plume. Au mois de mai, le texte qui précède le mois de mai est consacré à la musique à Venise par un excellent musicologue. C'est un thème qui est extrêmement important parce que les écoles musicales à Venise, dans l'histoire de Venise, ont joué un rôle de premier plan et ont eu souvent une grande influence sur l'ensemble de la musique italienne. Au mois de juin, un texte sur la peinture vénitienne, qui est écrit par Pompeo Molmenti, qui est un spécialiste italien, texte très illustré sur les différentes écoles de peinture. On sait que les écoles de peinture de Venise sont nombreuses et illustres. Ensuite, je ne vais pas tout énumérer, mais il y a...
Nous avons l'article qui est fort intéressant d'Étienne Taïmit.
Oui, sur Venise et la mer. Alors, Étienne Taïmit de l'Académie de Marine, grand spécialiste et historien de la marine, alors qui aborde là quelque chose qui se rapporte tout à fait à l'histoire, bien sûr, de Venise, sa puissance maritime, son aptitude dans la création maritime, l'arsenal de Venise était gigantesque et avait une capacité de production pour son époque tout à fait extraordinaire, etc., etc. Ce que je veux simplement dire, c'est que en complément, au-delà de ces présentations, des 12 chapitres, en quelque sorte, correspondant aux 12 mois, on trouve ensuite la présentation naturelle qui est celle d'un agenda, qui est utilisable comme un agenda pour noter ses rendez-vous, etc. Chaque semaine correspond à 2 pages en vis-à-vis, avec évidemment les jours, etc. Mais c'est accompagné, chaque semaine est accompagnée elle-même à la fois d'illustrations, d'une citation d'un auteur ayant eu l'occasion d'évoquer Venise, de Paul Morand à Jean Raspail, Henri de Régnier à Jean Giono, etc. Pour chaque semaine, il y a également des illustrations spécifiques. Donc, c'est un ensemble qui est chatoyant, très intéressant, très instructif, et qui évidemment, dans la période où l'on pense au cadeau, offre une occasion de cadeau tout à fait extraordinaire.
Alors Philippe Conrad, ce magnifique ouvrage sur Venise vous inspire quelques réflexions?
Oui, je ne sais si c'est prévu dans le fil des mois. On pouvait imaginer une rubrique consacrée au rôle joué par Venise dans la lutte contre le Turc, dans cette bataille pour la Méditerranée contre l'Empire ottoman, puisque ce sont les galères de Venise à Lépante en 1571 qui ont joué dans une large mesure le rôle décisif, qui ont été un petit peu les chars d'assaut qui ont mis en déroute la flotte ottomane, et puis nous retrouverons les Vénitiens également lors de la guerre de Candie au XVIIe siècle. Ils seront de tous les combats dans l'Adriatique et en Méditerranée orientale. Ils perdront malheureusement Chypre qui avait été vénitienne pendant assez longtemps, mais ils ont été très présents dans cette lutte qui a été tellement décisive pour l'histoire de la Méditerranée et l'histoire de l'Europe.
Étienne Taïmit doit en parler dans Venise et la mer.
Oui, parfaitement, et François de Crécy l'évoque également dans son long texte très intéressant sur l'histoire de Venise. Il évoque aussi ce qui est intéressant, mais là, Philippe Conrad, qui connaît bien toute cette histoire, il évoque aussi l'organisation très particulière de la République vénitienne. Qu'est-ce que l'institution des doges, quelle en est l'origine,
oui,
quelle en a été son évolution. Il y a un texte final d'ailleurs qui est écrit par Yves Amiot, puisque Venise a une fin. La fin, c'est évidemment Bonaparte, cette intervention militaire qui a clos la longue et extraordinaire histoire de Venise avec la disparition du dernier doge.
Oui. C'est un petit peu l'histoire de Venise, c'est un petit peu une réduction de l'histoire de l'Europe traditionnelle. Sa disparition est significative de cette époque de bouleversement total qu'est la Révolution française, et elle disparaît effectivement avec Bonaparte. Elle ne sort pas pour autant de l'histoire, en tout cas d'une certaine histoire héroïque, puisqu'il faut rappeler, on l'oublie souvent, qu'en 1848-49, Venise, sous les directions de Daniel Manin, a résisté pendant une année entière au siège effectué par les Autrichiens à l'époque des guerres de l'unité italienne.
Victoria nous rappellera tout à l'heure l'adresse où il est possible de commander cet agenda, n'est-ce pas?
Je peux vous la donner
oui,
tout de
suite. Oui, allez-y Victoria. Oui.
Agenda Venise 2004. Vous envoyez 34 euros, donc 4 euros pour frais de port. Vous libellez vos chèques à Histoire et Mémoire. Et vous les adressez 88 avenue des Ternes, 75017, Paris.
Bien. Nous avons, Victoria, vous recevez toujours, et nous avons de très nombreuses questions qui nous arrivent encore concernant Valois. Nous avions terminé l'émission sur Valois, mais il y a tellement de questions que nous allons quand même en poser une ou deux. Une qui m'intéresse beaucoup parmi les questions d'auditeurs, je crois que c'est un auditeur qui nous pose cette question. Y a-t-il des textes de Valois durant la Première Guerre mondiale? En fait, je pense que l'auditeur vous demandait quel est le rôle de Valois pendant la Première Guerre mondiale. Donc il est soldat
Il est soldat, il va participer à la bataille de Verdun. Il sera témoin d'ailleurs du rôle bénéfique joué par Pétain lors de cette bataille, puisqu'il en tirera la leçon que finalement, là où il y a une volonté très forte, on peut toujours se sortir d'un mauvais pas. Et il terminera la guerre avec des décorations et des galons de sous-lieutenant. C'est une belle guerre de 14-18.
Il n'écrit pas sur la guerre.
Non, il a écrit sur la guerre, mais rien de fondamental.
Et lorsqu'il sort de la guerre, lorsqu'il termine la guerre, donc il l'a fait en totalité.
Il l'a fait en totalité.
Il n'est pas blessé.
Non.
Il fait toute la campagne de 14 à 18.
Oui, absolument.
Il est dans quelle arme? Dans quelle arme est-il?
Je ne sais pas.
Oui, mais donc il fait toute cette guerre. Et quand il sort de la Première Guerre mondiale, il se retourne vers ses amis d'avant la guerre.
Bien sûr, il se retourne vers ses amis d'avant la guerre, et il va développer un certain nombre de structures qui sont en fait des courroies de transmission de l'action française, notamment dans les milieux anciens combattants. Alors, il a une particularité, Valois, par rapport à beaucoup d'anciens combattants, c'est que, bon, la plupart des anciens combattants, surtout ceux de Verdun, comme lui, ont fini la guerre avec une volonté de réconciliation franco-allemande. parce que vous n'avez pas Valois. C'est-à-dire que Valois, lui, persiste et signe et dit que l'Allemagne doit payer. Elle doit payer sans fin.
Et, comme Maurras.
Voilà. Il est là-dessus très, très acharné. Et c'est un peu une exception parce que dans le milieu ancien combattant à cette époque, c'était pas du tout la position générale. Et on verra même beaucoup d'associations d'anciens combattants françaises avoir des relations suivies avec les associations équivalentes en Allemagne. Et d'ailleurs, beaucoup de, on retrouvera certains présidents d'associations d'anciens combattants dans la collaboration franco-allemande en pendant la Seconde Guerre mondiale. Valois, lui, va suivre un chemin tout à fait différent. On l'a dit tout à l'heure, il sera arrêté par les Allemands parce qu'il était résistant, déporté. Donc là-dessus, Valois n'a pas varié. Il a donc fait une belle guerre de 14-18 alors qu'il avait été réformé précédemment.
C'est tout à fait intéressant. Mais pouvez-vous revenir sur un point important? Valois sort-il changé, métamorphosé par la guerre de 14? Non. Sent-on dans son évolution doctrinale...
Non, je n'ai pas du tout le sentiment qu'il sort transformé sur le plan intellectuel de cette guerre. C'était le cas probablement d'autres personnes. La guerre a sûrement exercé, la grande guerre a sûrement exercé sur d'autres personnages une influence. Sur Valois, je ne la sens pas. Sinon qu'il y a un élément nouveau dans ses préoccupations, c'est le côté ancien combattant, ça c'est sûr, mais c'est plus stratégique que fondamental. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Valois, en fait, qui était un ultranationaliste, qui était un admirateur de la guerre, qui en fait souhaitait la revanche, parce que la revanche, c'était quelque chose qu'il avait appris pendant sa tendre jeunesse auprès de sa grand-mère et de son grand-père, parce que il fallait absolument venger l'affront de Sedan. Donc il a baigné dans tout cela. Donc Valois a voulu cette guerre. On peut dire qu'il a vraiment été de ceux qui ont voulu la revanche sur l'Allemagne. Il n'était pas le seul, il y en avait beaucoup. Mais je ne pense pas que l'expérience du feu l'ait marqué dans sa chair et profondément. Il en a tiré des leçons intellectuelles. Valois reste un intellectuel. Valois n'est... je parlais de Verdun tout à l'heure. Bon, il a compris que le rôle de Pétain avait été décisif. Il va écrire là-dessus, mais je ne pense pas que la guerre l'ait transformé.
Il y a la question de son âge, peut-être aussi. Ceux qui ont été les plus transformés par la guerre sont les gens qui ont une vingtaine d'années.
Alors, c'est vrai qu'il avait 36 ans quand il a été mobilisé. Oui. Donc,
un élément d'explication.
Voilà. Il n'est pas comme Marcel Déa, par exemple.
Voilà, ouais. Voilà, c'est ça qui, lui.
Pierre de Meuse.
Oui, mais je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une petite anecdote qui concerne Georges Sorel. Georges Sorel est mort donc après la guerre de 14 et ensuite sont venus en Italie le régime fasciste et en Allemagne et en Russie continue le régime bolchevique. Et un jour, le secrétaire général des affaires étrangères reçoit la visite à deux jours d'intervalle de l'ambassadeur d'Union soviétique et de l'ambassadeur d'Italie et qui lui transmettent le message suivant. Nous savons que la tombe de Georges Sorel est en très mauvais état et qu'elle se dégrade constamment. Nous proposons de la réparer et de la gratuitement de la reconstruire de manière digne de ce qu'il avait été. Et alors, évidemment, le secrétaire général des affaires étrangères est très ennuyé parce qu'il y a un problème diplomatique là. S'il donne raison aux Russes, c'est les Italiens qui sont fâchés et vice versa. Donc, alors, il trouve un moyen de s'en sortir et il demande à la veuve de Sorel de décider ce qu'elle veut. Et la veuve de Sorel répond. Aucun des deux ne réparera la tombe. Nous préférons la réparer nous-mêmes.
Victoria, question d'auditeur.
Une question, oui, à propos de l'agenda Venise. Dans cet agenda, Venise 2004, dans cet agenda, évoque-t-on par exemple le rôle de Venise en Méditerranée et son rôle durant les croisades?
Alors, je crois que Philippe Conrad, qui a regardé l'agenda, pourrait répondre.
Oui, oui, bien sûr. On évoque le rôle de Venise en Méditerranée, qui a été évidemment tout à fait considérable. Venise, république oligarchique, marchande, qui a pris le relais d'Amalfi, de Gênes, ensuite, dans, au XIIe, XIIIe siècle, qui a transporté, pour une part, les croisés vers la Terre Sainte, à l'époque donc, où il fallait reconquérir la Palestine. Alors, de Venise, évidemment, quand on évoque les croisades, il faut aussi évoquer la part d'ombre, à savoir la fameuse quatrième croisade en 1204, où les Vénitiens ont détourné en quelque sorte la croisade pour l'entraîner contre Constantinople, avec les conséquences lamentables que l'on sait, c'est-à-dire l'attaque de la capitale de l'Empire byzantin par les croisés occidentaux, ça fut une date très importante dans l'histoire de la rupture sur le long terme entre l'Occident catholique latin et l'Orient grec orthodoxe. Et puis ensuite, les Vénitiens sont restés effectivement très présents en Méditerranée. À l'époque, je l'évoquais tout à l'heure, du péril ottoman. Ils avaient bâti une sorte de thalassocratie méditerranéenne, appuyée sur un certain nombre d'îles, dont Chypre, quelques autres îles de la mer Égée également, et ils ont tenu, ils ont résisté longtemps face aux Ottomans, et c'est seulement dans la seconde moitié du XVIe siècle que le reflux là est devenu inévitable, avec une brillante exception qui est la Crète, puisqu'il a fallu pratiquement une vingtaine d'années de guerre aux Turcs au XVIIe siècle pour réussir à reconquérir Candie, c'est la fameuse guerre de Candie.
À reprendre
la Crète aux Vénitiens, guerre mémorable et très significative, puis c'est aussi une guerre européenne, puisque de nombreux combattants, comme ils sont venus nombreux à la bataille du Saint-Gothard contre les Turcs en Autriche, eh bien, nombreux combattants venus d'un peu partout, de tous les endroits de l'Europe chrétienne, sont venus lutter à Candie contre les Turcs, et il en est un qui a laissé la vie et qui est célèbre, c'est le duc de Beaufort, hein, et puis quelques autres, comme le jeune marquis de Radour. Enfin, il y a tout un martyrologe des combattants européens dans cette campagne de Crète, mais qui s'est finalement mal terminée puisque Venise a perdu cette île, et cette île va tomber sous la coupe ottomane jusqu'à ce que la révolte de ses populations aboutisse à son rattachement à la Grèce à l'extrême fin du 19e siècle.
Au moment où certains se préparent à accueillir à bras ouverts la Turquie au sein de l'Europe, il est bon que ce genre de rappel historique soit fait, afin de bien montrer que l'histoire de la Turquie s'est faite contre l'Europe. Et d'ailleurs, dans l'agenda que j'ai sous les yeux, et qui est tout à fait magnifique, ce thème est encore abordé. Nous allons, bien entendu, vers le terme de l'émission. Victoria a des annonces à faire.
Une demande de plusieurs auditeurs, ils voudraient connaître le nom du disque que vous avez passé pendant les petites musiques de pause. Alors c'est un disque compact qui s'appelle Les Celtes, c'est le volume 2, et sa référence est Dom 1437. Mais il est déjà assez ancien et je ne suis pas sûr qu'on le trouve encore.
C'est un superbe disque. Oh, mais nos auditeurs sont tout à fait extraordinaires je suis certain que dans les 5 minutes qui viennent, nous allons avoir un message et dire oui, mais ce disque a été réédité par telle maison, on le trouve à tel endroit. J'en prends le pari.
Allez, prenons les paris.
D'autres annonces.
Plusieurs annonces. Le Salon France Jeunesse, Salon du Livre et des Produits de Jeunesse avec des animations, se déroulera le samedi 8 novembre de 14h à 19h et le dimanche 9 novembre de 11h à 18h à l'espace Saint-Bernard, 10 rue du Petit Musc, Paris 4e, métro Sully-Morland ou Bastille. Pour tout renseignement, le 01 69 78 30 23. Le samedi prochain, 11 octobre, grand pèlerinage de la tradition à Lisieux en l'honneur de Sainte Thérèse. Messe à la basilique à 15h, organisée par Monsieur l'abbé de la Motte, prieur de la fraternité Saint-Pidis pour la Normandie. Vendredi prochain, 10 octobre, de 17 à 19h, Monsieur l'abbé Dominique Bourmeau dédicacera son temps de modernisme, et samedi prochain, le 11 octobre, de 15h à 18h30, Claude Reichmann dédicacera le secret de la droite. Oui. À la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, métro Saint-Michel. Rappelons la 13e marche pour la vie, organisée par Renaissance catholique, avec la participation de nombreux mouvements pro-vie. Samedi 18 octobre prochain, rendez-vous à partir de 17h30, place des Petits Pères, devant la basilique Notre-Dame des Victoires, Paris 2e, métro Bourse. Il s'agit d'une marche au flambeau. Durée de la marche, 5 km, accessible à tous.
5 km à pied.
Bon. À l'arrivée à 20h, au Sacré-Cœur, salut du Saint-Sacrement dans la basilique. Tract disponible auprès de Renaissance catholique, 89 rue Pierre Brossolette, 92 130 Issy-les-Moulineaux, téléphone 01 46 62 97 04 et fax 01 46 62 95 19. Et courriel, attention, tenez-vous bien, tout attaché, rcatholique@wanadoo.fr. Mercredi 22 octobre, à 20h30, Philippe Conrad, salué, et Émeric Choprade nous entretiendrons respectivement de l'histoire des relations franco-américaines et de l'Amérique puissance impériale. À la Maison des Mines, 270 rue Saint-Jacques, Paris 5e, métro Port-Royal ou Luxembourg, entrée 7 euros. Cette conférence est organisée par l'Association pour l'Histoire, boîte postale 1, 78 206, Mantes-la-Jolie. Et enfin, je rappelle l'adresse de l'Afrique réelle, boîte postale 6, 03 140 Charroux, abonnement d'un an, 68 euros, 4 numéros. Et enfin, l'agenda de Nice 2004, 34 euros, dont 4 euros de frais de port. Envoyez votre chèque libellé à Histoire et Mémoire au 88 Avenue des Ternes, 75 017, Paris. Rappelons aussi le titre du livre dont nous avons parlé. Georges Valois, de l'anarcho ou l'anarcho-syndicalisme au fascisme, de Jean-Claude Valla, collection Les Cahiers Libres d'Histoire, numéro 11, à commander à la Librairie Nationale, 12 rue de la Sourdière, Paris 1er, téléphone 01 42 86 06 92.
Victoria, merci. Pierre Demeuse, merci. Dominique Vénère, merci. Philippe Conrad, merci. Claude Valla, merci. Chers auditeurs, merci de votre patience. Nous vous donnons rendez-vous avec Philippe Conrad et Dominique Vénère le 26 novembre. J'aurai peut-être une surprise à vous annoncer amusante concernant l'Afrique. Alors peut-être le 26 novembre, chers auditeurs, rendez-vous donc dans un peu plus d'un mois, n'est-ce pas ? Parce que notre prochaine émission est donc dans cette semaine. Bonsoir, chers auditeurs, et je rends la parole à la régie.
Ici Radio Courtoisie, radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Le Becquetch, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 8 octobre de 18 à 21h, en différé jeudi 9, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Radio Courtoisie. Il est 20h57, voici le programme de la soirée et de la nuit sur Radio Courtoisie.